nous allons commencer ce dernier conseil municipal de l'année 2019. Donc je vous remercie de votre présence, ainsi que les administrés et citoyens de Bédouin donc, qui sont dans la salle. Je salue la presse, toujours fidèle à nos débats. Et je vous informe d'abord que nous disposons d'un certain nombre de pouvoirs. Madame Perrin-Carole a donné pouvoir à Monsieur Rossetti, Patrick. Monsieur Constant Alain a donné pouvoir à Monsieur Bernard Gilles. Madame Nathalie Reynard a donné pouvoir à Vincent Pouillode. Madame Trévilly a donné pouvoir à Madame Béatrice Roux. Madame Morgane Chapeau a donné pouvoir à Madame Colette Leclerc. Madame Blandine Rasselet m'a donné pouvoir. Donc je demanderai à Madame Mallaire d'assurer le secrétariat de cette séance. Cachez votre joie. Je vais dans un premier temps vous demander l'approbation du compte rendu de la séance du 7 novembre 2019 qui a été transmis et affiché le 15 novembre. Y a-t-il des remarques particulières concernant cette séance ?
Juste moi, je m'abstiendrai puisque...
Bien, je soumets donc ce compte rendu à votre approbation. Des oppositions, des abstentions, donc une, celle de M. Campon, donc unanimité pour le reste de l'Assemblée. Premier point, conclusion de bail emphytéotique administratif avec le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, afin de soulager M. Petit qui a... beaucoup de lectures à nous faire. On peut proposer à M. Port de faire la lecture.
Je vous en prie.
Alors, la commune de Bédouin est propriétaire de l'ancien prieuré du Moustier, au lieu dit Pied-Bonneau, chemin de la chapelle du Moustier, dont elle a fait l'acquisition auprès de l'association de Champagne-sur-Loué le 11 décembre 2014. Monsieur le maire rappelle que cet immeuble était destiné à accueillir le siège du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux et qu'à ce titre, la commune a bénéficié d'un soutien financier de la part de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'État. Situé sur les parcelles cadastrées section B numéro 695, 1609, 690, 691, 694, et 1755, représentant une superficie de 77 hares et 65 centiares, le Moustier est destiné à être mis à bail du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, le SMAEV, lequel va se transformer en syndicat de gestion du parc national, naturel régional du Mont Ventoux. La commune entend conférer à ce dernier le droit d'utiliser cet immeuble et de réhabiliter le bâtiment. Afin de formaliser les relations juridiques avec le SMAEV, il est envisagé de conclure un bail emphytéotique défini à l'article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Le bail emphytéotique permet à une collectivité territoriale, propriétaire d'un bien immobilier, de le louer à un tiers qui pourra construire ou aménager un ouvrage sur le domaine public ou privé de la commune. Le bail emphytéotique administratif est conclu pour une période comprise entre 18 et 99 ans, période à l'issue de laquelle l'ouvrage réalisé redevient la propriété de la collectivité bailleresse, ainsi que les améliorations apportées à celui-ci et sans indemnité. Le bail emphytéotique administratif prévoit également le versement d'un loyer ou redevance auprès de la collectivité bailleresse fixée librement. Il est donc envisagé de conclure un bail emphytéotique administratif d'une durée de 35 ans avec le SMAEV et de fixer le montant du loyer annuel à 8000 euros. Le loyer sera soumis à indexation sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, publié lors de la signature du bail. Les frais de rédaction du bail emphytéotique seront à la charge du SMAEV. Les impôts, contributions et taxes, les assurances, les charges de fonctionnement, l'entretien et les réparations seront supportés par le SMAEV. Il en est de même pour les grosses réparations du bâtiment et pour le remplacement de tous les éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que cela s'avérera nécessaire. Vu l'avis de France Domaine, considérant que le preneur devra engager l'avis de France Domaine en date du 15 octobre, évaluant la redevance à 3 800 euros. Considérant que le preneur devra engager les travaux avant le 1er décembre 2021 et les achever avant le 1er décembre 2023, il est précisé que le premier versement de la redevance interviendra au plus tard le 1er juin 2022. Vu le CGCT, le projet de bail, il est proposé au Conseil d'approuver la conclusion d'un bail emphytéotique administratif avec le SMAEV pour l'immeuble Le Moustier, situé chemin de la Chapelle du Moustier, à Bedouin, pour une durée de 35 ans et à compter du 1er juin 2020. De fixer le montant de la redevance annuelle à 8000 euros, d'autoriser M. le maire à signer le bail emphytéotique administratif avec le SMAEV par acte authentique et de confier la rédaction de l'acte à l'étude de Maître Arnoux, notaire à Bedouin.
Y a-t-il des questions particulières?
Oui. Donc, Alain Constant n'est pas là ce soir parce qu'il a un déplacement professionnel toute la semaine. Donc, il m'a chargé de vous donner lecture d'un texte qu'il a rédigé au sein de notre groupe. Donc, je vais vous lire ce que nous pensons de ce bail qui va être signé. Donc, chers élus, chers collègues, je souhaite m'opposer à cette délibération et je tenais à soumettre à votre réflexion mes interrogations et remarques sur cette délibération. En effet, nous agissons dans l'urgence. Je sais que les élections sont proches, mais on sent une volonté de passer rapidement cet acte et du coup, le recul et l'analyse ne sont, une fois de plus, pas au rendez-vous. Pour preuve, nous nous engageons pour 35 ans. Nous n'avons aucune visibilité sur les travaux qui vont être engagés. On signe une fois de plus un chèque en blanc, sans aucune garantie et contrepartie. Si ce n'est un loyer vraiment symbolique, synonyme pour moi d'arrangement et contrepartie. Cela me rappelle la fameuse centrale photovoltaïque, sans aucune négociation financière favorable pour la commune. En effet, le loyer est vraiment dérisoire. 8 000 euros annuels correspond à 666 euros par mois pour une surface de terrain de pratiquement 8 000 mètres carrés. Une surface bâtie, alors ça c'est l'extrait du cadastre, des annexes pour 180 mètres carrés et une surface sur deux niveaux de 450 mètres carrés, ce qui fait 900 mètres carrés plus 180 mètres carrés. Nous n'avons pas la surface sur le projet d'acte, qui est en pièce jointe à la délibération, ce qui est totalement anormal. On brade une fois de plus nos potentialités et patrimoine au profit d'un syndicat et d'arrangements internes. Le loyer est vraiment trop bas. Pourquoi ne pas attendre la création officielle du parc pour passer cet acte? Nous ne sommes pas à 4 ou 5 mois près. Pourquoi ne pas négocier plus favorablement notre bien pour l'avenir et les finances de notre commune? Alors que le fameux parc naturel va avoir de l'argent à revendre avec ses fonds européens et notre contribution municipale. Pour mémoire, le budget de fonctionnement prévisionnel est de 1,7 million. Le loyer du bâtiment accueillant la structure représentera à l'avenir 1/212 du budget, ce qui correspond à moins de 0,5%. Belle négociation. Pourquoi dispenser l'amphithéâtre de 2 ans de loyer au seul motif de la durée des travaux, 16 000 euros de perdu. Pour toutes ces raisons, Nous nous opposons à ce projet d'acte en l'état, avec son loyer si généreux, pour je ne sais quelle raison. Merci de votre écoute. Je pourrais rajouter que on n'a pas de plan des travaux, on n'a pas de chiffrage. Pour quelle raison une durée de 35 ans alors que la charte va être signée pour 15 ans ? 35 ans ne correspond à aucune logique. 15 ans, eh bien, on pourrait dire, même si on n'est pas d'accord sur le coût, que ça correspondrait à l'engagement des communes dans la charte de ce parc. 35 ans, c'est ni un premier engagement, ni même le second qui sera encore de 15 ans. Donc pour quelle raison 35 ans ? On a acheté ce bâtiment en 2014, donc ça fait déjà 6 ans, 5 ans on va dire. On va passer un bail en 2020 qui va aller jusqu'en 2055. Donc ça va faire entre 40 et 41 ans que ce bâtiment sera à nous, sans aucune utilisation pour la population de Bédouin. Je veux dire, ce bâtiment va être à nous pendant 41 ans, sans que, bon, on a eu le centre aéré pendant un an ou deux, pendant un mois, voilà. Donc vraiment, nous nous interrogeons beaucoup sur cette location, et alors le prix, n'en parlons même pas. Alors pour mémoire, je vais faire une petite comparaison, parce qu'aujourd'hui, on va passer une autre délibération où on va changer le prix de l'aire de camping-car. Un camping-car qui passe une nuit à Bédouin, fait une nuit 24 heures à Bédouin, paie 10 euros. S'il reste un mois, il paie 300 euros. Un camping-car, ça fait 10 mètres carrés. Nous, on va louer 1000 mètres carrés pour 600 euros par mois. Et le terrain. Et sans parler de l'aspect patrimonial du bâtiment. Voilà. Pour l'instant, j'en ai terminé.
Bien, mais monsieur Bernard, vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Monsieur Campon, vous voulez parler peut-être ?
Peut-être quelques questions, comme ça tu répondras globalement. Moi, j'ai juste une interrogation, c'est sur la question des travaux. Il me semblait qu'on avait déjà vu des plans de financement prévisionnels sur la question des travaux, sur la remise en état du Moustier. Je ne rêve pas, hein, il me semble qu'on avait vu ça. Donc aujourd'hui, là, dans ce plan-là, c'est bien, c'est sûr, voilà, ma question elle est là, c'est bien le SMAEF qui va réaliser les travaux d'aménagement, semble-t-il. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'a rien, on n'a pas de visibilité, alors que c'est un bâtiment qui nous appartient, même s'il y a un bail amphithéotique derrière. Voilà, moi, la question, elle est là-dessus. Et après, je partage en partie, bien sûr, c'est vrai que 8 000 euros, ça peut sembler dérisoire, mais ça peut être aussi un acte important lié à la volonté d'avoir la Maison du Parc sur notre territoire.
Très bien, merci. Alors bon, de toute façon, il n'échappera à personne que quoi qu'il se passe, qu'il soit relatif au PNR, et bien entendu encore plus à son siège, suscite donc les hurlements placide donc de la minorité municipale. Donc, écoutez, on s'attendait de toute façon à ce fonctionnement. Un certain nombre de questions qui méritent réponse. Alors, on va prendre quand même un petit peu de temps. Et même si, vu la densité de vos remarques, donc j'aurais bien aimé, mais j'aurai l'occasion de répondre par ailleurs et certainement par écrit à tous ceux qui auront été enregistrés. Vous voyez, c'est un des avantages de ceci. Alors, premier point, sur le timing, je ne vois pas pourquoi le fait de louer dès maintenant un bâtiment dont on connaît tout de même la destination, elle a été quand même clairement fléchée, devient quelque chose de coupable. J'apprécie moyennement les termes d'arrangement. Je vous en laisse la responsabilité. Alors, il y en a un qui l'écrit, l'autre qui le lit. Pour moi, le problème, il est le même. Donc, le timing, il est ce qu'il est, il est bon. Il faut simplement savoir que quand de tels travaux doivent être entrepris, ben, ça fait l'objet d'un permis de construire. Le permis, donc, le dit permis, ben, vous vous en doutez, ne se délivre pas en l'espace de 3 ou 4 jours. Vous voulez en connaître le contenu. Alors, le contenu des travaux, et donc, puisqu'il est admis que les seuls travaux qui vont être faits sont des travaux d'aménagement intérieur, on a deux types de lieux, On a ceux qui sont appelés à être ERP, ceux qui vont recevoir du public, où là, effectivement, on aura les plans. Mais par contre, pour l'aménagement intérieur de tout ce qui est le reste, qui reste donc non accessible au public, il n'y a nulle obligation dans la réglementation de la construction à ce que l'on les ait. Bon, ces plans, bien entendu, ne sont pas encore faits. Par contre, là où c'est important, c'est que le portage financier ne sera pas fait par la commune, ce qui avait été le cas lors de l'achat. Lors de l'achat, souvenez-vous, donc nous avions bénéficié de 752 000 euros de la part du conseil régional, de... Ah, que 500 000 euros, excusez-moi. Ensuite, donc, nous avions 120 et 80 000 de dotation d'État, et il ne vous échappera pas, je pense que vous en êtes bien conscient, que tout investissement qui est porté par la commune doit faire l'objet d'une participation de 20%. Ce n'est pas une nouveauté. On aurait bien aimé à l'époque se dispenser de mettre cette somme d'argent. Mais néanmoins, en tant que propriétaire et donc un bon père de famille, on a profité de cette somme pour faire les accès, notamment pour réviser la toiture, pour changer toutes les boiseries, toutes les huisseries plutôt, donc ce qui fait qu'on a actuellement un bâtiment qui est hors d'air et hors d'eau. Donc on a consommé ce que nous avions mis, et c'est bien pour cette raison aussi que l'on veut le récupérer en faisant payer un loyer. Donc c'est une opération qui sera entièrement blanche pour la commune. Ensuite, si vous notez une discordance entre les évaluations des domaines et le loyer donc, que l'on pratique, eh bien écoutez, je crois, M. Bernard, vous nous faites aussi régulièrement la réflexion quand il s'agit de la SAFER. Alors, mais je crois que c'est plutôt vers ces organismes-là qu'il faut vous tourner si vous estimez que leur travail n'est pas bien fait, que c'est surévalué, sous-évalué ou autre. Nous, pour ce qui nous concerne, et c'est la règle de toutes les collectivités, eh bien, on est bien obligé de s'appuyer sur les textes et sur les chiffres qui nous sont fournis.
Je peux répondre ?
Oui. Oui.
Non, mais c'est quand même extraordinaire d'entendre des choses comme ça. Alors que vous avez acheté des terrains pendant 5 ans à 5 euros le mètre, alors que les recommandations des domaines étaient d'un euro 40. Et que tu dis que vous êtes obligé de vous conformer à l'avis des domaines. C'est quand même extraordinaire.
À des moments donnés, il y a peut-être des seuils qui méritent donc d'être examinés. Et puisque quand je vous en parle...
Le seuil est de 3,5, 3,5.
Nous parlons des domaines, mais de la même manière... puisqu'on en parlera tout à l'heure des terrains, quand on parle de la SAFER, dont vous êtes administrateur, très bien, eh bien, faites remonter en tant que délégué communal. Il me semblait que vous aviez dit ça la dernière fois, on le revérifiera. Mais essayez de faire remonter dans les instances dans lesquelles vous êtes juste. Dans les instances où vous êtes légitimement élu et où vous représentez la commune, essayez aussi de faire en sorte que leurs estimations soient cohérentes. Parce que vous trouverez toujours à reprocher aux uns d'employer l'estimation de l'un ou l'autre des organismes qui sont appelés à s'exprimer lors de ces ventes et de ces locations. Alors donc, à un moment donné, j'applique les textes. Si vous estimez que cette délibération n'est pas bonne, est entachée d'illégalité, eh bien, adressez-vous aux services compétents.
On l'a déjà fait par le passé.
Oui, avec le succès que l'on connaît.
Oui, voilà. Oui, exactement.
Mais n'hésitez pas, c'est toujours plus important de prendre l'avis de, disons, d'instances qui savent quand même un peu. Vous imaginez bien que de telles dispositions ont été faites, bien entendu, sous contrôle d'avocats, sous contrôle d'officiers ministériels, donc on a des notaires, donc après tout est interprétable. Madame Roux.
Insuffisant. D'accord ? Donc il est déjà nettement au-dessus de ce que les domaines disent, mais il faut aussi que tu saches, et c'est d'ailleurs indiqué, c'est que c'est un bail à construction, c'est-à-dire que le locataire va faire les travaux d'aménagement, mais qu'à la sortie du bail, toutes les améliorations restent propriété de la commune, sans indemnité. C'est pour ça que la redevance annuelle, finalement, si tu la compares à d'autres immeubles, n'est pas si élevée. Parce que c'est ça, c'est le principe du bail à construction. Toutes les améliorations resteront propriété de la commune à l'issue du bail, sans indemnité. Donc, voilà. Donc, si tu veux, les travaux exécutés par le SMAEV resteront au bénéfice de la commune. C'est ça qui justifie que le loyer ne soit pas comparable à ce qu'on peut faire dans un immeuble locatif ordinaire.
Pour quelles raisons fait-on un bail de ce style-là? C'est ça la question aussi. Déjà, non, mais le bâtiment déjà, nous appartient au cas où tu...
Déjà, c'est tu le fait pas, de ne pas se départir.
Pas compris. Non, mais, le bâtiment nous appartient.
On devait, oui, mais auquel cas, si ensuite en raisonnement, on aurait pu le vendre, c'est hors de question. On le conserve dans le patrimoine de la commune. Ah. Ce bâtiment est valorisé par les locataires avec qui ont tout intérêt à l'aménager de la meilleure manière pour ceux qui veulent en faire. On se réfère à un prix de location donc, qui est un prix réglementaire. Mais, et ensuite, que voulez-vous que l'on vous dise de plus? Non, vous estimerez toujours que les prix ne sont pas bons.
Eh bien, écoutez, non, c'est la façon de faire.
La façon de faire, on passe un conseil. Alors attention, on passe un conseil municipal. Et de toute façon, on connaît très bien le résultat qui sera celui du vote. Donc, vous nous cherchiez une mauvaise querelle.
Non, mais le résultat du vote n'empêche pas la discussion. Donc, pour quelle raison faisons-nous un bail de ce type-là, alors que nous aurions très bien pu faire un bail de location normal et que le bâtiment nous appartienne toujours? Parce que là, quand même, les gens qui ont financé, la population de Bédouin qui a financé ce bâtiment pendant 40 ans, elle n'y aura pas droit. Donc, il y en aura beaucoup qui seront au cimetière dans 40 ans, et nous aussi, certainement.
La population de Bédouin, sur cette opération, et je souhaiterais que vous le portiez dans les observations, les comptes rendus de séance, retrouve l'intégralité des biens de l'argent qu'elle y aura investi. C'est une opération qui est blanche pour la commune. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne venez pas maintenant mettre dans l'esprit des gens que l'on va perdre de l'argent en faisant une location. Auquel cas, monsieur Bernard, vous allez pouvoir nous tenir le même raisonnement avec la maison de santé, de la même manière. C'est encore une opération blanche. Je crois qu'il faut au contraire se réjouir. Donc que l'on puisse, et que l'on ait la sagesse d'essayer de fonctionner de cette manière en faisant des opérations qui sont blanches pour la commune et qui apportent un service, et même si vous n'en êtes pas persuadé, une notoriété et une assise à la commune de Bédouin par rapport à un projet d'aménagement du territoire qui est quand même majeur, qui est connu partout. Bon, on ne va pas reprendre les discussions sur le projet de PNR. Et donc, ben écoutez, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, vous trouverez toujours moyen de critiquer donc une décision qui a été prise.
Mais, ce qui me sur cette opération, sur cet argument-là, je peux être sensibilisé à ça. Oui, c'est intéressant, on est sur une opération blanche. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est la question, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas les travaux. J'ai entendu, il y a 700 ou 800 000 euros de travaux dedans. Mais qu'est-ce qu'on va y faire? Quel est le contenu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des salles de réunion? Est-ce qu'il y aura des salles d'exposition? Est-ce qu'il y aura des salles accessibles au public? Est-ce qu'il y aura des salles disponibles pour la population de Bédouin? Etc, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et là, on ne l'a pas. Donc, c'est ça qui me gêne de dire, on va donner un bail aujourd'hui sans savoir la destination de ce bâtiment. Et est-ce qu'on va pouvoir, nous, population, en profiter? Voilà, hein, à quelques niveaux que ce soit.
Alors, réglementairement, si on permet de construire quel qu'il soit, il va y avoir un document... Attendez, à un moment donné, moi je vais revenir sur d'autres éléments. À un moment donné, on a eu un projet qui a été présenté sur Bédouin. J'ai proposé de faire des commissions de réflexion, des commissions pour que la population soit informée. Vous avez vu ce que ça a donné. Bon, l'opposition a refusé d'y participer. Certains sont venus. Donc, à un moment donné, on a voulu donner les éléments que l'on avait, et on en avait à ce moment-là, puisqu'ils ne nous appartenaient pas. Et donc, la consultation n'a rien donné. Bon, certains se sont ingéniés à faire tomber un projet dont on ne sait pas s'il serait allé ou non au bout. Ce n'était pas nous qui en étions les maîtres d'œuvre, nous on était là simplement en tant qu'examinateurs. Aujourd'hui, on nous demande de la même manière à connaître ce qui va être fait, Mais on est dans le cadre d'un permis de construire où, jusqu'à la fin de la période d'instruction et à la délivrance du permis, donc ça ne sera pas consultable. Mais que va me faire le SMAEB? Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que ce sera des locaux qui seront adoptés à la mission qu'il a sur le territoire. Je ne vais pas vous dire le nombre de lavabos, le nombre de WC, ni de bureaux. Soyons clairs. On loue le bail, et justement, on le loue, c'est un bail à construction de manière à ceux qui l'aménagent. Et le gros avantage, disons, que nous pouvons en tirer, c'est que nous n'avons pas nous-mêmes, en tant que propriétaires, à faire le portage. Je ne sais pas comment on aurait pu le faire, parce que bon, pourquoi ce chiffre? Pourquoi on a parlé de ce chiffre dans les 700-800 000 euros? Parce que lors de la première des premiers contacts, où, donc ça avait été examiné par un cabinet d'architecture et où ils avaient vaguement l'idée de la manière dont ça devait être réaménagé, puisque ça ne correspondait plus à l'utilisation par les sœurs de Champagne-sur-Loué. Donc ils avaient donné ce chiffre indicatif, mais à la limite, nous, on n'a même pas à le savoir. Et surtout, on n'a même pas à se soucier de savoir comment ils se procurent les finances. Je veux dire, ils vont certainement faire un montage avec le conseil régional et d'autres structures, le département, l'État, enfin tous ceux qui sont partie prenante dans le projet de parc.
Ils vont sûrement déterminer, mais ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir, notamment sur le rez-de-chaussée, sur les annexes, est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures? Est-ce que le SMAEV, enfin le syndicat du parc futur, va donner des ouvertures à la population de Bédouin sur la possibilité d'accéder à des salles? Je ne sais pas. J'ai été voir plusieurs fonctionnements de maisons du parc, hein, pas ici mais ailleurs, et ça existe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont disponibles pour le public qui vient, mais aussi pour la population locale. Mon intérêt, mon questionnement, il est là. Voilà, il n'est pas sur... Après, sur le montage, oui, c'est intéressant, parce qu'il y a un montage qui permet d'avoir voilà, un bâtiment qui va être entretenu, etc. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dedans.
On ne peut pas demander, donc dès maintenant, je veux dire, on n'a pas, autorité pour demander ce qui va en être fait. Mais ensuite, quand même, quand on réfléchit à la philosophie, là aussi, il ne faut pas chercher des poils sur les œufs, qu'est-ce qui va se passer? Donc on est quand même sur un établissement donc, qui est à destination d'accueil de public ou autre, donc il est certain que ça ne va pas devenir une prison qui sera complètement fermée où seuls pourront rentrer ceux qui ont le code. Par contre, ce que je vous dis, et ça c'est à peu près certain, c'est que nous aurons réglementairement vocation à avoir les plans de l'établissement relevant du public, et puis les autres, on les trouvera aussi, mais il n'y a pas de raison qu'on fasse un ghetto de justement ce que nous avons voulu sur le territoire, parce qu'il faut voir aussi le retentissement emblématique que cela procure et à la commune et au Ventoux et donc au projet global. Quoi.
Dernière question sur le timing des travaux. Là. Tu as dit tout à l'heure que ce bâtiment était prévu pour faire la maison du parc depuis très longtemps. Ça, on le savait, c'est pas une surprise. Hein. Mais pour quelle raison vous n'avez pas demandé... Pourquoi déjà les plans ne sont pas, les demandes de permis de construire ne sont pas déposées? Parce qu'on va encore perdre 2 ans, là, puisque c'est prévu depuis très longtemps. Mais pour quelle raison ça ne s'est pas fait avant? Je pose une question, c'est tout.
Monsieur Bernard.
Ah, mais c'est pas polémique, pour une fois.
Ah, c'est pas polémique, attendez. J'en connais dans cette salle, donc, qui se sont vivement opposés et par tout moyen à la mise en place d'un parc naturel régional. Si un permis avait été déposé ou si un architecte avait commencé à travailler commandité donc par le syndicat mix aménagement d'équipement, il est sûr que c'est pas la commune qui s'y serait mis, vous nous auriez dit...
Ah mais ça, tu fais de la fiction, de la politique fiction.
Vous avez fait un arrangement. Voilà ce
tu
que
fais
vous
de la politique
dit.
Fiction.
Alors donc,
ça ne s'est pas passé, donc tu
on
sais
fonctionne,
pas.
On fonctionne en temps réel. Moi, ce que je peux vous dire, la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il ne reste plus qu'une étape pour la validation du parc naturel régional.
On le sait.
Qui se, alors donc, c'est quand même une
ça
belle anticipation. Parce que je vous informe quand même que j'étais au conseil régional avec nombre d'autres
nous,
maires.
On le sait, oui.
Voilà, et que ce projet a reçu l'aval de toutes les formations, il y a eu une seule abstention, c'est celle du groupe Rassemblement National. Et alors, et ça je tiens à vous le dire quand même, parce que vous n'y étiez pas, vous ne savez pas qui y était et qui n'y était pas, j'ai remarqué des absences qui n'auraient pas dû être.
Ah mais j'étais pas, désolé, je peux
voilà,
pas te dire. Pas,
je pense que certains élus locaux se sont dispensés de la séance de manière à ne pas, ne pas avoir...
Je ne vois pas ce que ça a à faire dans la discussion du conseil municipal de Bédouin, mais bon.
Oui, oui, mais si.
Si, ah bon, mais ça...
Voilà, j'ai trouvé un petit peu ennuyeux que certains conseillers régionaux, ben, bizarrement, ce jour-là, ne soient pas là pour exprimer ce qui, d'après eux, est leur fond sentimental. Et je crois que vous connaissez, que vous êtes beaucoup fréquenté, certainement, ah ben, encore, mais ça...
Tout le monde connaît tout le monde, hein.
Ça, c'est pas mon souci.
Il ne faut pas l'oublier.
Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu manquant. Donc, de mettre au voie ce projet. Y a-t-il des oppositions? Donc 5, qui sont M. Bernard Rossetti, M. Campon, Mme Perrin et M. Constant. Très bien. Des abstentions. Je vous remercie pour cette preuve favorable. Conclusion d'un bail de chasse avec la société de chasse Le Ventoux. Donc, monsieur le maire rappelle qu'au terme d'un acte reçu par maître Reynard, notaire à Bédouin, en date du 8 mars 1991, la commune de Bédouin et la société de chasse Le Ventoux ont conclu entre elles un bail de chasse pour une durée de 30 ans, à compter du 1er janvier 1992 et devant se terminer le 31 décembre 2021. Afin de mettre en conformité le dit bail, suite aux modifications qui ont été apportées aux parcellaires de la commune et en contrepartie d'ajuster le loyer annuel, les parties entendent résilier conventionnellement et sans indemnité le bail conclu le 8 mars 1991. Monsieur le maire propose de signer avec la société de chasse Le Ventoux un nouveau bail de chasse pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2020, et conformément au projet 6 juin, et portant sur divers terrains constituant la forêt communale, représentant une surface totale de 6256 hectares, 0,8 hectares, 46 centiares, ainsi que diverses parcelles en nature de terre, land de bois, pour 20 hectares, 35 quarts et 11 centiares. Le preneur sera tenu de rédiger un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation au maire de la commune et aux représentants de l'Office national des forêts. Il y sera notamment fait état de la sécurité dans la chasse et des obligations qui en relèvent, que ce soit pour la chasse du petit ou du grand gibier, des conditions de déroulement de la chasse, de la liste nominative des adhérents de la société de chasse, des opérations menées pour la limitation des populations de sangliers. De plus, avant la fin de la première saison de chasse, le preneur présentera une carte où figureront les différents équipements cynégétiques en place et en projet, la position de la réserve de chasse. Le montant du loyer annuel est fixé à 200 euros et fera l'objet d'une révision à la date anniversaire en fonction de la variation de l'indice national des fermages. Vu le code rural, vu le code forestier, vu le code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil d'accepter la résiliation du bail de chasse au 31-12-2019 et d'approuver les termes du bail de chasse à courir du 1er janvier 2020 au 31/12/2049, de fixer le montant du loyer à 200 euros annuels, d'autoriser Monsieur le maire à signer le bail de maintien à l'objet d'une publication au service de publicité foncière. Des questions, remarques particulières? Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors parfois on le fait trop tôt. Ça n'a absolument rien à voir avec le parc. Et d'autre part, on en revient quand même aux fondamentaux d'un parc naturel régional. Celui qui crée l'autorisation, c'est le conseil municipal par personne du maire. On a réactualisé, on a remis dans le patrimoine, enfin, vous ne l'ignorez pas, un certain nombre d'hectares. Voilà, puis c'était le bon moment aussi. Voilà, je soumets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Constitution d'une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section G 2186, 2183, 2169. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2018-111 en date du 22 octobre 2018, le conseil municipal a autorisé la constitution d'une servitude en surface pour l'accès et en tréfonds souterrains pour le passage de gaines ou de canalisations frappant la parcelle cadastrée section G2038 au profit des parcelles G2081, 82 et 83. Afin de poursuivre la viabilisation des parcelles cadastrées G2081, 2082, 2083 et 2184, il est proposé de constituer une servitude de passage et de tréfonds en souterrain pour ces parcelles et d'étendre le principe de constitution d'une servitude de passage et de tréfonds aux parcelles G2186, 2183 et 2169, acquisition à venir de la maison de retraite. Les propriétaires des parcelles G2081, 82, 83 et 2184, appelés fonds dominants ainsi que leur ayant cause, pourront circuler dans le passage à pied et en véhicule à toute heure du jour et de la nuit. Ils devront laisser le libre accès, le stationnement étant interdit. Ce droit comporte également la faculté de passer en sous-sol toute canalisation ou tout câble nécessaire à la viabilisation et à l'utilisation des biens vendus. Les propriétaires des parcelles G2081, 82, 83 et 2184 s'obligent à effectuer sans délai toute réparation rendue nécessaire pour cause des dégradations commises par ces derniers ou toute personne intervenant au service pour le compte de ceux-ci. Cette servitude est consentie à titre gratuit. Les dispositions de la Convention seront réitérées par acte authentique auprès de l'étude de Maître Arnoux. Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé que le fonds servant est constitué des parcelles G2038, 2186, 2183 et 2169 appartenant au domaine privé communal ou devant être acquis par la commune. Les fonds dominants sont constitués par les parcelles G2081, 82, 83 et 2184. Monsieur le maire précise que les chemins d'accès réalisés pour desservir les parcelles seront par la suite classés dans le domaine public communal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la délibération numéro 2018-111 du 22 octobre 2018, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de constitution d'une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles 2186, 83 et 2169, d'autoriser Monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer la convention de servitude, de dire que cette convention de servitude sera régularisée en vue de sa publication au bureau des hypothèques par acte authentique, par Maître Arnoux, notaire à Bédouin.
Très bien. Des questions particulières? Je crois que vous avez le plan. C'est ça, oui. Bien, une seule remarque qui concerne aussi tout ce secteur, c'est que ces aménagements de voies permettront l'amorce de la, et certainement prochainement la réalisation du barreau qui va relier la route de Malocène au chemin de la Faune du Loup. Et je tiens à remercier Madame Del Innocenti sur laquelle donc on empiète de 12 mètres carrés. Ça méritait d'être dit pour avoir des angles de giration de véhicules qui soient suffisants. Bon, y a-t-il des oppositions? Des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. Numéro 4, déplacement du chemin rural de la Sauvier Ouest, acquisition foncière.
Par arrêté numéro 2019-435 du 18 octobre 2019, Monsieur le maire a prescrit une enquête publique et désigné Monsieur Jacques Blanc en qualité de commissaire enquêteur. L'objet de cette procédure concernait le déplacement du chemin rural de la Sauvier Ouest à Bédouin. Les consorts Barjolbaum sont propriétaires des parcelles cadastrées section B 878, 79, 880, 881 situées à l'est du chemin rural de la Sauvier Ouest. Considérant la proximité immédiate du chemin avec son habitation et au regard de l'étroitesse de ces derniers, en accord avec Monsieur Jean-Claude Vendran, propriétaire des parcelles 894, 895 et 896, il est proposé de déplacer le chemin plus à l'ouest sur la propriété de M. Vendran. M. Jean-Claude Vendran a en effet convenu de céder à Mme Baume l'emprise du nouveau chemin et les parcelles entre l'ancien et le nouveau chemin. Mme Baume cédera ensuite à la commune de Bédouin la nouvelle emprise du chemin et la commune cédera à Mme Baume l'ancienne emprise de celui-ci. L'enquête publique s'est déroulée du 05 au 20 novembre 2019. Elle portait sur le déplacement du chemin rural de la Sauvier Ouest, consistant en une impasse prenant naissance sur le chemin de la montagne et aboutissant à une parcelle communale cadastrée section B numéro 896. Aucune observation n'a été apportée au registre d'enquête. Par courrier du 22 novembre 2019, Monsieur le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au déplacement du chemin rural de la Sauvier Ouest. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles 896B d'une superficie de 20 mètres carrés et 896C d'une superficie de 325 mètres carrés, B896E d'une superficie de 222 mètres carrés issue de la parcelle B896 ainsi que la parcelle B894H d'une superficie de 291 mètres carrés issue de la parcelle B894 appartenant à M. Vendran. Le prix d'acquisition représentant une superficie totale de 685 mètres a été arrêté à l'euro symbolique. Madame Baume supportera l'intégralité des frais relatifs à ce déplacement du chemin et prendra en charge les travaux de création de la nouvelle emprise de chemin. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la propriété des personnes publiques, le Code de la voirie routière, notamment les articles R141.4 à R141.9, vu le PLU, vu le budget de la commune, vu le bornage réalisé le 2 mai 2018, et les plans de division foncière établis par le cabinet Grimont Géomètre Expert, vu l'accord de Mme Annie Baume et de M. Jean-Claude Vendran, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural, d'acquérir les parcelles cadastrées section B 696, B, C et E, issues du détachement de la parcelle initialement cadastrée B 696, d'une superficie totale de 394 mètres carrés, et B numéro 694H, issue du détachement de la parcelle B numéro 694 représentant 291 mètres carrés, soit un total de 685 mètres carrés pour l'euro symbolique, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte notarié ainsi que tout document subséquent.
Très bien. Des questions particulières ? Donc je crois que tout le monde a compris que c'est enfin le déplacement dont on parlait depuis plusieurs décennies pratiquement. Donc c'est à la demande donc de Mme Baume, et c'est Mme Baume qui supporte tous les frais, y compris les acquisitions auprès de M. Vendran, mais qui sont une affaire privée. Et de la même manière, donc, c'est au Grandefontaine, hein, c'est l'éloignement de la maison du chemin qui permettra un accès et qui donnera plus de tranquillité à la maison de M. et Mme Barjol. Bien. Et donc, comme vous allez voir par la suite, on est obligé de le prendre en trois délibérations, puisque donc il faut que nous parle de notre terrain ou autre, mais peut-être tu pourras nous faire quelque chose un peu plus succès. Bon, en attendant, je mets cette première délibération aux voix. Oui, on a prévu une gaine, un empouissement de gaine. Oui. Oui. Par contre, très compliqué pour prendre l'égout. On est beaucoup plus bas. Oui, l'électricité, on tire des gaines. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, délibération suivante.
Non, c'est bon. Déplacement du chemin rural de la Sauvier Ouest, désaffectation puis aliénation de l'ancienne emprise du chemin. Donc, par arrêté numéro 29-435 du 18 octobre 2019, Monsieur le maire a prescrit une enquête publique et désigné Monsieur Jacques Blanc en qualité de commissaire enquêteur. L'objet de cette procédure concernait le déplacement du chemin rural d'Assouguet-Ouest à Bédouin. Les consorts Barjolbon sont propriétaires des parcelles cadastrées, section B 879-880-881, situées à l'est du chemin rural d'Assouguet-Ouest. Considérant la proximité immédiate du chemin avec son habitation et regard de l'étroitesse de ce dernier, en accord avec M. Jean-Claude Vendran, propriétaire des parcelles B 894, 95 et 96, il proposait de déplacer le chemin plus à l'ouest sur la propriété de M. Vendran. M. Jean-Claude Vendran a convenu de céder à Mme Annie Baume l'emprise du nouveau chemin et les parcelles entre l'ancien et le nouveau chemin. Mme Baume cédera ensuite à la commune de Bédouin la nouvelle emprise du chemin et la commune cédera à Mme Baume l'ancienne emprise de celui-ci. Vu le bornage réalisé le 2 mai 2018 par le cabinet Grimont et le plan de division foncière, l'enquête publique s'étant déroulée du 5 au 20 novembre 2019, elle portait sur le déplacement du chemin rural d'Assouguet-Ouest, consistant en une impasse prenant naissance sur le chemin de la montagne et aboutissant à une parcelle communale cadastrée section B 896. Par courrier du 22 novembre 2019, Monsieur le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au déplacement du chemin rural d'Assouguet-Ouest. Aucune observation n'a été portée au registre d'enquête. Suite à l'ouverture d'un nouveau tracé du chemin rural, dont l'emprise est prise sur la propriété de Mme Baume, après acquisition par Mme Baume de M. Vendran, la commune de Bédouin procédera à la désaffection de l'ancien chemin rural, modification parcellaire en route, pour 420 m2 identifiés en J sur le plan de division foncière. Bordé à l'est par la propriété des consorts Baume-Barjol et à l'ouest par la propriété de Mme Annie Baume, nouvellement acquise de M. Jean-Claude Vendran. Le prix de la cession du tronçon de l'ancien chemin rural, superficie totale de 420 m2, a été arrêté à l'euro symbolique. Mme Baume s'étant engagée à supporter les frais d'acte ainsi que les travaux sur l'emprise du nouveau chemin. Donc, vu le code général des collectivités territoriales de la propriété des personnes publiques, le code rural, les décrets du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique, le code de la voirie routière et notamment les articles R141.4 à 141.9, vu le PLU de la commune de Bédouin, le budget de la commune, vu les plans des divisions foncières et le modificatif parcellaire à venir établi par le cabinet Grimont, vu l'avis domanial en date du 6 décembre portant 1 € le mètre carré, soit 424 €, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la désaffection du tronçon du chemin rural de la Sauguier-Ouest, de céder à l'euro symbolique au profit de Mme Baume la parcelle issue de ce détachement pour une superficie de 420 m2 et d'autoriser Monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer l'acte notarié ainsi que d'autres documents subséquents.
Très bien, merci. Donc, on est dans le complément de la délibération précédente. Des questions particulières ? Donc je soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Et je remercie aussi M. Jean-Claude Vendran qui a permis un élargissement en patte d'oie permettant de mieux entrer dans ce chemin qui aurait pu être carrément perpendiculaire par rapport à la route des Baux. Le numéro 6, M. Petit.
Par arrêté numéro 2019-435 du 18 octobre 2019, Monsieur le maire a prescrit une enquête publique et désigné Monsieur Jacques Blanc en qualité de commissaire enquêteur. L'objet de cette procédure concernait le déplacement du chemin rural des Sablières qui traverse la carrière des Crocs, propriété de Sibelco France, entre les parcelles G1589, 1586, 1632, 1633 et G774, 773, 772, 770 et 1308. Depuis plus de 30 ans, ce chemin a été déplacé vers le nord au droit de l'actuel stand de tir. Sa nouvelle emprise de 5 mètres, déterminée par un document d'arpentage dressé par le cabinet Grimont, géomètre expert du 7 avril 1981, et portant les références cadastrales section G1587, 1584 et 1631, a été cédée à la commune de Bédouin. Aujourd'hui, ces numéros parcellaires correspondent à la nouvelle emprise et ont été supprimés sur le plan cadastral, mais l'ancienne emprise du chemin reste quant à elle la propriété de la commune. Par ailleurs, entre l'entrée est de la carrière des Crocs et le Valas de la Fond du Loup, le chemin rural des Sablières a également été déplacé sur la propriété de Sibelco France, parcelle G numéro 1308, et sur celle de M. Pierre Jardini, G1309, ainsi que dans une parcelle communale G758, sans qu'aucune régularisation foncière ne soit effectuée. Il y a lieu de régulariser cette situation par l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural dans les propriétés de Sibelco France, de M. Jardini et de la commune. L'enquête publique s'est déroulée du 5 au 20 novembre. Aucune observation n'a été apportée au registre d'enquête. Par courrier du 22 novembre 2019, Monsieur le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au déplacement du chemin rural des Sablières. Il est proposé d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles G1308 d'une superficie de 83 m2 et G1308J d'une superficie de 74 mètres carrés appartenant à Sibylle Coufrance, ainsi que la parcelle cadastrée G1309I d'une superficie de 120 mètres carrés appartenant à M. Jardinier. Le prix de cession a été arrêté à l'euro symbolique. La commune supportera tous les frais afférents à la présente régularisation. La rédaction de l'acte sera confiée à Maître Frédéric Arnoux, notaire. Vu le code général des collectivités territoriales, de la propriété des personnes publiques, de la voirie routière, les articles R141-4 à 141-9, le PLU, vu le budget de la commune, le plan de division foncière établi par le cabinet Grimaud en date du 11 octobre 2019, vu les accords de Sibelco France et de M. Jardini, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'ouverture du nouveau tronçon du chemin rural, d'acquérir les parcelles cadastrées section G 1308H et J, issues du détachement de la parcelle initialement cadastrée G 1308 d'une superficie totale de 157 mètres carrés et G numéro 1309I d'une superficie de 120 mètres carrés issue du détachement de la parcelle G 1309 pour l'euro symbolique et d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte notarié ainsi que tout document subséquent.
Très bien, donc mais c'est la régularisation comme vous l'avez lu d'un, comment dire, d'une modification qui a été faite il y a à peu près une trentaine d'années, 30-35 ans. Voilà, donc le tout se fait dans la joie et la bonne humeur pour du symbolique. En fait, on officialise le tracé qui est celui du chemin qui mène au stand de tir et repas. Des questions particulières ? Donc, je le soumets aux voix, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie.
Déplacement de l'ancien chemin rural des Sablières, désaffection puis aliénation de l'ancienne emprise du chemin. Donc, par arrêté numéro 2019-435 du 18 octobre 2019, M. le maire a prescrit une enquête publique et désigné M. Jacques Blanc en qualité de commissaire enquêteur. L'objet de cette procédure concernait le déplacement du chemin rural des Sablières qui traverse la carrière des Crocs, propriété de Sibelco France, entre les parcelles G 1589, 86, 32, 33 et G 774, 73, 72, 70 et 1308. Depuis plus de 30 ans, ce chemin a été déplacé vers le nord au droit actuel de l'actuel stand de tir. Sa nouvelle emprise de 5 mètres déterminée par un document d'arpentage dressé par le cabinet Grimaud, géomètre expert, le 7 avril 1981, portant les références cadastrales section G 1581, 87, 84 et 1631, a été cédée à la commune de Bédouin. Aujourd'hui, ces numéros parcellaires correspondant à la nouvelle emprise ont été supprimés sur le plan cadastral, mais l'ancienne emprise du chemin reste quant à elle propriété de la commune. Par ailleurs, entre l'entrée est de la carrière des Crocs et le Valas de la Font du Loup, le chemin rural des Sablières a également été déplacé sur la propriété de Sibelco France, sur celle de M. Pierre Jardini, ainsi que dans une parcelle communale, la G758, sans qu'aucune régularisation foncière ne soit effectuée. Il y a lieu de régulariser cette situation par l'ouverture de nouveaux tronçons de chemin rural dans les propriétés de Sibelco France, de M. Jardini et de la commune. L'enquête publique s'étant déroulée du 5 au 20 novembre, aucune observation n'ayant été portée au registre d'enquête. Par courrier du 22 novembre 2019, M. le commissaire a donné quitus favorable au déplacement du chemin des Sablières. Suite à l'ouverture de nouveaux tronçons du chemin rural dont l'emprise est prise sur la propriété de la Sibelco France, de M. Jardini, de la commune de Bédouin, et pour laquelle le conseil municipal s'est prononcé en faveur de l'acquisition foncière, il est proposé de procéder à la désaffection des anciennes emprises du chemin rural des Sablières traversant la propriété de Sibelco France et bordée au nord par les parcelles G 1589, 1586, 1632 et 1633 et au sud par les parcelles G 774, 773, 772, 770 et 1308. Les emprises ainsi désaffectées seront cédées au profit du seul riverain, la société Sibelco France. Elle porte les références suivantes. Parcelle A issue du DP pour 30 ares et 35 centiares. Parcelle B issue du DP pour 2 ares et 64 centiares. Parcelle G 758 C pour 8 ares et 94 centiares. Parcelle G 758 E pour 28 centiares. Le prix de cession a été arrêté à l'euro symbolique. La commune de Bédouin supportera les frais à la présente régularisation. Le chemin rural Sablières étant déjà existant dans son nouvelle emprise, aucun travaux ne sont à prévoir. La rédaction de l'acte sera confiée à Maître Arnoux, notaire à Bédouin. Vu le code général des collectivités territoriales, de la propriété des personnes publiques, de la voirie routière, notamment les articles R141-4 à 141-9, vu le PLU, le budget de la commune, vu le plan de division foncière établi par le cabinet Grimaud en date du 11 octobre 2019, vu l'avis domanial du 6 décembre 2019, fautant en euros le mètre carré de parcelle, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à la désaffection du tronçon de l'ancienne emprise du chemin rural des Sablières, de céder à l'euro symbolique et au profit de la Sibelco France les parcelles issues du DP pour une superficie totale de 4221 mètres et d'autoriser M. le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer l'acte notarié ainsi que tout document subséquent.
Très bien, merci. De longues délibérations. parce que jusque-là, il n'avait pas été mis le doigt dessus. Les choses s'étaient déroulées. Voilà. Le chemin, en fait... Et surtout, on était sur propriété privée et pour le reste. Et vous avez des plans, là, ouais. Et oui. Et d'ailleurs, bien malin serait celui qui pourrait retrouver l'assiette du chemin au fond de la carrière.
Oui, je suppose que c'est parce qu'il y a le projet de centrale qu'on est obligé de se mettre en règle aussi.
Disons qu'en examinant par rapport à la centrale, en faisant les origines de propriété, on s'est aperçu qu'effectivement... On roulait chez les autres et qu'eux avaient roulé depuis longtemps chez nous, en tant que représentant de la commune. Très bien. Je soumets à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Monsieur Petit. Acquisition foncière de parcelles non bâties, quartier, le Mour de Verriers, la Rouillère, le Casal. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée délibérante qu'à l'occasion des échanges liés à la régularisation du tracé du chemin de Sabillères dans les carrières des Crocs, la société Subelco a consenti à céder à la commune différentes parcelles dont elle est propriétaire, dont elle n'a plus l'usage pour son activité. Il est donc proposé d'acquérir pour l'euro symbolique différentes parcelles d'une superficie totale de 4 hectares, 95 ares et 78 centiares situées en zone agricole. Lieu dit, le Mour du Verrier, les parcelles cadastrées section E17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1380, 1382, 1384, 1386, 1652, 1654 et 1657. Au lieu dit La Rouillère, la parcelle cadastrée section E511 pour une superficie de 1100 m2. Et lieu dit Le Casal, la parcelle cadastrée section G1439 d'une superficie de 1630 m2, étant précisé que celle-ci sera cédée par la suite au GAEC Montaga. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la propriété des personnes publiques, l'accord de Sibelco France en date du 2 septembre 2019, considérant qu'au regard du prix d'acquisition, la commune n'est pas tenue de saisir France Domaine. Vu les crédits inscrits au budget principal de la commune, il est demandé au conseil municipal d'acquérir les 17 parcelles actuellement propriété de Sibelco France d'une superficie totale de 4 hectares, 95 ares, 78 centiares pour l'euro symbolique, de charger maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte commune avec les opérations foncières liées au déplacement de l'ancienne emprise du chemin rural des Sabillères, et d'autoriser monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer toute pièce afférente à cette opération et engager les travaux.
Très bien, des questions particulières pour vous positionner le terrain le plus important, donc c'est celui qui se trouve sur le chemin des Granges, face à la maison de Gilbert Dallagnola, ici, quelques détails. Ouais. En haut à droite, oui. Qui est clôturé, voilà, en grande partie.
Engager des choses prévues sur cette clôture ou pas? On va l'enlever ou on va garder? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose ou pas?
Pas pour le moment.
Pas pour le moment. La question du passage des animaux, la biodiversité, ça pourrait être intéressant aussi d'enlever cette clôture-là.
Oui, sachant qu'a priori, la Sibelco avait été contrainte par un nombre important de mesures et je pense que des passages ont déjà été aménagés. J'avais pu vérifier, puisque dans cette carrière, là, pour ceux qui ont plus de 50 ans, il y avait, si on va un petit peu plus loin, on avait des ruisseaux qui descendaient, qui ont naturellement disparu, puisque le niveau du sol s'est abaissé de plusieurs dizaines de mètres. Et là, j'ai remarqué dernièrement qu'ils en avaient reconstitué un, qui allait en direction de la bâtisse qui reste là, qui servait au chargement du sable dans les véhicules à l'époque où il y avait la petite voie de chemin de fer qui venait derrière la cave avec les wagonnets. D'autres questions particulières? Et je le soumets donc au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Acquisition foncière de la parcelle cadastrée numéro F 954 auprès de la MAL. Conformément aux orientations du PADD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme à la commune de Bédouin de réaliser les équipements nécessaires à son développement. Ainsi, il est proposé d'acquérir l'acquisition amiable de la parcelle située lieu-dit Les Prés-la-Mer, actuellement classée en zone 2AU du PLU à hauteur de 30 euros le mètre carré, étant précisé que la commune prendra également à sa charge des frais d'actes afférents à toutes les acquisitions et chargera Marthe Arnoux, notaire à Bédouin, de leur rédaction. Un accord de principe de M. Roger Montagar, propriétaire de la parcelle cadastrée section F954, une superficie cadastrale de 600 m2, a été réceptionné en mairie en date du 9 décembre 2019 pour un montant total de 18 000 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2019-054 du 11 avril 2019 portant approbation du budget primitif 2019 pour la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle mentionné quartier près de la Maille au prix de 30 euros le mètre carré, soit 18 000 euros, d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte de vente et toute pièce afférente à cette acquisition et de charger maître en nous, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Très bien, merci. Donc, mais pour le, vous la retrouvez sur le petit croquis, bien sûr le plan qu'on vous a distribué, là, qui est multicolore, c'est la parcelle qui est rayée de rouge vers le haut du document. Des questions particulières?
Oui, on n'a pas l'estimation des domaines là, pour cette parcelle. Pourquoi? Parce que c'est un 2AU.
On n'a pas besoin de demander au domaine. On doit demander un avis au domaine quand on cède une propriété communale.
Et les terrains à côté qui ont été achetés, il y avait quand même un avis. Il y avait un avis sur toutes les délits qu'on a passés, il y avait un avis.
Là, on n'est plus en zone agricole, puisqu'on est en zone 2AU, donc on avait au préalable sur les prés de la mer, on a eu aussi des avis de la SAFER, quand on a pu rentrer des propriétés agricoles.
Oui, non, mais
là, on est en zone,
juste une question.
Là, on est en zone 2AU, donc en zone à urbaniser, comme son nom l'indique.
Donc le prix se fixe... Donc,
le prix se fixe de gré à gré. Et quid de la destination, mais la zone 2AU étant destinée à plus ou moins long terme, selon les prochains PLU, et ça à être autorisé, à être urbanisé définitivement. C'est le seul endroit où on pourra étendre la commune de zone urbaine à ce jour.
Un accès.
C'est dans l'idée, effectivement.
Est-ce que la servitude qui longe les autres parcelles là, après, est suffisamment large pour pouvoir
après,
faire un accès
après, dans le cadre d'une définition de zone 2AU, si on la fait classer en zone urbaine, il y aura aussi matière de prévoir, de dire que la pénétration doit faire tant de mètres carrés et donc de faire un emplacement dit réservé pour pouvoir pénétrer sur suite du... Voilà. Mais ça sera dans le document d'urbanisme à mettre en place au moment de dire si on est la zone 2AU, on veut... Alors ne prenez pas ça pour argent comptant. Il n'y a pas de PLU en cours, hein, qui n'en sortira pas un PLU d'ici un mois. Vous pouvez en être garanti. Il peut très bien se dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir des zones... arrêter pour faire du logement, des zones pour faire peut-être un espace vert, pour faire un équipement public. Voilà, c'est-à-dire que dans une zone à urbaniser, comme son nom l'indique, elle était à urbaniser, donc il y aura matière à travailler sur cette zone qui est quand même, enfin, qui n'est pas très grande, hein, c'est 4-5 hectares, je n'ai pas en tête exactement, mais c'est vraiment les quelques prés qui entourent la grande ferme à gauche en face. La nouvelle caserne des pompiers.
Bien, pardon, vas-y.
Alors, il vous a parlé. Alors, il ne vous a pas échappé aussi qu'il peut y avoir un accès simplement aussi pour les secours. Ça ne veut pas dire que ça sera un accès obligatoirement pour une quelconque utilité. Alors, bon, il ne vous a pas échappé que pour ceux qui ont lu les conclusions du SCOT qui sont en gestation. La zone artisanale de Bédouin est donc suspendue. Je pense que tout, enfin, si vous ne le saviez pas, au moins vous aurez appris quelque chose. Et donc, il sera, s'il devait y avoir quelque chose sur ce secteur, il y aurait une action concertée entre la mairie, qui aurait donc la zone 2AU, qui relèverait de sa compétence, et le SCOT et la COV pour une éventuelle zone d'activité. Sachant que, c'est pour ça que derrière on a la délibération suivante, une zone d'activité en zone montagne doit être nécessairement liée à la zone urbaine. Ce qui veut dire qu'effectivement, les premiers travaux qui ont été faits il y a quelques années sur cette zone sont aujourd'hui plus ou moins caduques, puisqu'effectivement, il y aura à nouveau à revoir une éventuelle pénétration. Est-ce qu'on va arriver directement un peu plus bas sur la route de Crayon? Est-ce qu'on va... il n'est pas question qu'on puisse rentrer non plus par le chemin du Moulin parce que c'est trop étroit. Donc voilà, il va y avoir à un moment donné, effectivement, une réflexion sur cette zone, savoir ce qu'on va y faire et comment on va y faire. Et ça sera l'occasion d'un travail qui va prendre à peu près 12 à 18 mois. Tenter que le SCOT soit approuvé et qu'il soit valide ensuite.
Oui, effectivement. C'est une école de patience. Bon, je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour cette unanimité. Vous continuez, s'il vous plaît.
Donc la délibération suivante fait état d'échange de parcelles auprès de la Maire et au Grabas. Donc, conformément aux orientations du PADD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme à la commune de Bédouin de réaliser les équipements nécessaires à son développement. Monsieur le maire rappelle que les acquisitions de parcelles situées auprès de la MAI ont été consenties à hauteur de 5 euros le mètre carré et précise que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions et chargerait maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction. Monsieur Roger Montagard, propriétaire de 14 parcelles situées au quartier près de la MAI, pour une superficie totale de 13 055 mètres carrés, a donné son accord en vue de procéder à un échange avec 15 parcelles communales situées auprès de la maille pour une superficie totale de 11 915 mètres carrés et une parcelle de 1310 mètres carrés au Grabas. La superficie totale des parcelles communales représentant 13 225 mètres carrés. Il a été convenu de procéder à un échange de terrain sans soulte avec la commune. Donc, les parcelles auprès de la MAE sont les parcelles F 1530, 974, 971, 973, 975, 1010, 994, 1008, 1025, 976, 1012, 1013, 1011 et F et 1014. Et la parcelle du détachement de morceau au Grabas, donc est la parcelle qu'on a achetée où il y aura le poste de relevage de la future extension de l'assainissement. Donc pour un total de 13 055 mètres carrés au prix de 65 275 euros. Et la commune de Bédouin cède la F 1001, 1002, 1005, 1029, 1055, 1051, 1558, 1031, 1049, 1050, 1099, 1110, 1059, 1047, 1058. Et la parcelle donc issue du Grabas pour 1310 mètres carrés. Et c'était, pardon, je me suis trompé de colonne tout à l'heure. Pour un total de 13 225 mètres carrés, pour un total de 68 031 euros. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu l'accord de principe de M. Roger Montagard en date du 9 décembre 2019, il demandait au conseil municipal d'approuver l'échange sans soute entre les parcelles propriété de M. Montagard et celles de la commune, conformément aux éléments ci-dessus, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer les actes notariés et toutes pièces afférentes à cette acquisition et de dire que maître Arnoux, notaire à Bédouin, fera la rédaction de l'acte. Qui ont le dossier. Donc il s'agit d'échanger les parcelles qui sont en bleu sur le plan contre les parcelles qui sont en vert. sachant que nous, ce qui nous appartient, c'est le vert et le jaune, et ce qui appartient au rose et le jaune, et ce qui appartient au consort Montagar, et le bleu et le vert. Donc voilà, donc nous aurons un tènement qui va effectivement toucher du coup la zone 2AU dont nous venons de parler.
Non, comme le micro est éclairé.
Sur l'échange, non. Par contre, dans la délibération, là, il est dit que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions. Mais ce ne sont pas des acquisitions, ce ne sont que des échanges.
Pour faire, même, il faudra qu'on fasse un acte notarié pour dire qu'on échange. Donc, même si c'est pour 1 euro, il y aura un acte notarié qui va nous coûter quelques centaines d'euros.
Oui, mais c'est pas. Il y a écrit toutes les acquisitions. C'est les échanges, c'est pas les acquisitions.
Oui.
C'est pas le même prix, un échange et une acquisition.
C'est la valeur est définie sur le montant de la valeur. À l'euro symbolique, c'est l'acte le moins cher, puisque c'est la valeur initiale. Et comme son nom l'indique, à l'euro symbolique. Si on faisait un acte de vente pour 60 et quelques mille euros chacun, ça nous coûterait beaucoup plus cher, effectivement.
La dernière ligne du tableau n'est donnée qu'à titre indicatif. Et ce qui est important, c'est de comparer les surfaces. Bon, il eût été un miracle que cela tombe à juste. Enfin, donc, on est à quelques dizaines de mètres carrés près. Et par contre, pour ce qui a été estimé, donc pour la propriété de Roger Montagar, c'est le prix qu'il aurait obtenu de toutes les parcelles dont les numéros cadastraux précèdent, si nous l'avions acheté dans cette zone, puisqu'elles sont au milieu des autres, au même prix que ce que nous l'avons acheté. Donc c'est un marché équitable. Et lui, il trouvera avantage aussi, puisqu'il saura pertinemment et de manière certaine où faire pâturer ses bêtes, alors qu'actuellement, nous avons bien débroussaillé, merci à ceux qui s'y sont penchés, donc c'était un patchwork de propriétaires qui ignoraient d'ailleurs où étaient les limites de leur terrain, vu que certains font quelques dizaines ou quelques centaines de mètres carrés. Bien, je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Petit-Gombeux.
Oui. Donc, délibération numéro 11, échange de parcelles auprès de la maille. Conformément aux orientations du PADD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme la commune de Bédouin de réaliser les équipements nécessaires à son développement. Monsieur le maire rappelle que des acquisitions de parcelles situées auprès de la maille ont été consenties à hauteur de 5 euros le mètre carré et précise que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions et chargera et mettra en nous ce notaire à Bédouin de leur rédaction. Monsieur Aimé Montagar, propriétaire de la parcelle cadastrée section F996 située auprès de la maille, pour une superficie de 780 m2, a donné son accord en vue de procéder à un échange avec la parcelle communale F1098 située auprès de la maille pour une superficie totale de 880 m2. Il a été convenu de procéder à un échange de terrain sans soulte avec la commune. Donc, vu l'avis des domaines, en date du 27 novembre 2014, portant la valeur 1,40 € des 4 parcelles cadastrées en zone agricole du PLU, le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la propriété des personnes publiques, il demandait au conseil municipal d'approuver l'échange sans soute entre parcelles cadastrées section F numéro 996 propriété de M. Aimé Montagar et celle de la commune cadastrée section F 1098 conformément aux éléments ci-dessus. D'autoriser M. le maire, tout autre adjoint faisant fonction, à signer les actes notariés et toutes pièces afférentes à cette acquisition et de charger maître en nous, notaire à Bédouin, la rédaction de l'acte. Sur votre plan, les deux parcelles sont en orange, une en haut à droite 996, une tout à fait en bas dans le coin, c'est la 10098. Merci.
Donc c'est la suite et la fin, au moins provisoirement, de ces échanges. Pas de questions particulières. Et je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Changeons de registre. Parlons un peu d'argent. Monsieur Fort, le budget communal 2020, l'ouverture de crédit par anticipation. Donc là. L'opération habituelle.
Alors la collectivité sera appelée à voter le prochain budget primitif avant le 30 avril 2020. Dans le cadre de la continuité du service public, l'exécutif peut, entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sous réserve d'une autorisation préalable de l'organe délibérant et dans la limite du quart des crédits ouverts en investissement au budget de l'exercice précédent, conformément à l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de permettre de réaliser des travaux et de procéder à des acquisitions dont la mise en œuvre ne peut être différée. Il est proposé l'ouverture anticipée des crédits comme suit. Crédit ouvert en investissement 2019. Entre parenthèses, les dépenses réelles d'équipement hors reste à réaliser 2018 et hors chapitre 16 se montaient à 3 547 043,24 €. Le plafond de 25% sur cette somme est de 886 760,81. Nos crédits ouverts par anticipation se montent à un montant de 795 750. Ils se décomposent en frais d'études 4 000, acquisitions foncières 10 000, travaux divers sur les bâtiments communaux 18 750, réseau de voirie 12 000, réseau câblé 36 000, matériel et outillage de voirie 23 000, œuvres et objets d'art 15 000, matériel de bureau et matériel informatique 5 000, mobilier 5 000, construction 667 000. Le total donc fait bien 795 750. Vu l'article L612-1 du Code général des collectivités, vu les crédits inscrits au budget principal 2019, ainsi que les différentes décisions modificatives votées au cours de l'exercice, considérant la nécessité de procéder à l'ouverture de crédits permettant la réalisation d'investissements avant le vote du budget primitif 2020, considérant les articles budgétaires concernés qui pourraient donner lieu à des engagements et à des mandatements préalablement au vote du budget et sans tenir compte des restes à réaliser repris sur l'exercice 2020. Considérant que cette autorisation ne concerne pas les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme et dont l'exécution annuelle est fixée dans la limite des crédits de paiement votés, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les crédits sont votés par nature et par chapitre, conformément à l'article L2312-2 du CGCT. Le conseil municipal peut décider de voter les dépenses de la section d'investissement au sein d'une ou plusieurs opérations. Ainsi, seule l'Assemblée délibérante peut modifier les crédits ouverts sur un chapitre ou au sein d'une même opération et les transférer sur un autre par décision modificative. Au sein d'un même chapitre, en revanche, l'ordonnateur peut procéder à des virements entre articles sans autorisation du Conseil. Après avoir rappelé que la présentation et le vote des budgets n'interviennent plus par opération pour les dépenses d'investissement, mais par chapitre, il est demandé au Conseil d'autoriser l'ouverture de crédits anticipés sur le budget principal 2020 à hauteur de 795 750 € avant le vote du budget primitif, et de dire que les crédits d'investissement précités seront inscrits au budget primitif 2020.
Très bien, merci. C'est l'opération habituelle d'ouverture de crédit qui nous permet de payer dès le 1er janvier les investissements.
Oui, c'est ce qui permet de prendre l'argent d'une opération pour le mettre sur une autre, éventuellement.
Préciser.
Je ne sais pas, cette ouverture de crédit, normalement, tout ce qui est construction, c'est budgété. Donc, on doit avoir l'argent. Mais construction, 667 000 €.
On est tenu, là. On va y revenir. On est tenu pour pouvoir payer au 1er janvier. On est sur des investissements, hein, on est bien d'accord. Mmh, mmh. On n'est pas sur du fonctionnement. Le fonctionnement, il se reconduit par 12e. On n'a même pas à en parler, quoi. Et ensuite, il est...
Non, non, mais le fonctionnement, c'est là.
Bon, on est sur des investissements. Donc, la possibilité qui nous est offerte par le CGCT, c'est effectivement... On aurait très bien pu ne donner qu'un chiffre, 795 750. Voilà. Donc, par contre, nous, on l'a ventilé parce que, bien entendu, on sait, par exemple, qu'à tel endroit, des réseaux câblés, on a du France Télécom qui... qui devra être réalisée rapidement et qu'il faudra payer surtout.
Et oui, mais par contre, cette somme, là, vous n'êtes pas arrivé à cette somme par hasard. Les 667 000 euros, ça correspond à quoi? À quelle opération?
Oui, ça correspond à une opération que vous verrez tout à l'heure, c'est le réaménagement du chalet de Manin, parce qu'on s'engage résolument dans sa réhabilitation et ça va démarrer très vite en début d'année.
Ça c'est...
Pourquoi? Donc... quel est le souci?
Ah, mais il n'y a aucun souci. On en avait parlé en 2017, le projet date de 2017.
Exactement.
Et on le ressort aujourd'hui?
Oui. Et vous voulez que je vous dise pourquoi on n'a pas pu le réaliser en 2017?
Bien sûr que je veux savoir.
Parce que nous l'avions mis aux crêtes. Nous l'avions mis aux crêtes et à ce fameux crête qui sonne des dotations régionales.
Le projet de Bédouin n'avait pas été retenu.
Il y avait eu un tri qui avait été fait au niveau du conseil régional. Et bizarrement, c'était tombé sur le chalet de Manet. Y a-t-il une autre question?
Non, je ne siège pas au conseil régional, donc je ne me sens pas responsable de ce qui s'était passé.
Non, mais à l'époque, le chargé des finances du conseil régional, donc, était très connu sur le territoire. Et c'est pour cette raison qu'on n'avait pas pu y aller. Parce que quand on nous enlève la part du conseil régional, ce que vous retrouverez un peu plus loin... Je ne vois pas, pour la commune, ce n'était pas une priorité que d'aller... On est toujours dans le même fonctionnement, on est toujours 20% sur un investissement, toujours 20% commune. Mais ensuite, on n'avait pas les moyens de remettre, à l'époque même c'était un petit peu moins, les 200 000 euros qui auraient permis justement d'équilibrer l'opération, puisque l'État, lui aussi, reste sur des tranches très, très linéaires.
Et pour quelle raison, alors, on ne passe pas à la délibération du chalet de Manin, comme ça donne l'explication pour cette délibération?
Parce qu'on est obligé de prévoir...
Non, mais dans la chronologie de l'ordre du jour, je parle.
Ouh.
Mais non, parce que tu as donné l'explication parce que j'ai posé la question, sinon on n'a pas d'explication.
Ouais, mais bien, tu avais déjà réponse puisque tu étais venu en demander.
Ah, pas du tout, on ne m'a jamais dit c'était une avance pour le chalet de Manin.
Oui, mais voilà, moi je le dis maintenant.
Mais oui, mais on m'avait
c'est dans la suite.
On nous avait dit de poser la question au maire, donc voilà. C'est le maire, je te pose la question et j'ai eu la réponse.
Merci, monsieur le conseiller municipal, de cette bonne question. Enfin, notez qu'on m'a s'engagé.
C'est normal qu'on se renseigne.
Mais tout à fait, on n'a rien à cacher. Bien, donc pour cet engagement, y a-t-il d'autres questions particulières, Patrick? Œuvres et objets d'art, ce sont les...
Non, les... Je vous rappelle que les anges étaient sur le budget 2019. Et pour terminer, dans un souci de terminer la chapelle du Moustier, il reste une fenêtre qui n'est pas très visible, effectivement, de l'intérieur, puisqu'elle dessert la sacristie et tout ça, mais par rapport à l'extérieur... On a pensé qu'il était plus souhaitable de terminer le travail sur la chapelle du Moustier et de faire la dernière verrière sur le budget 2020. Comme ça, elle sera définitivement terminée pour toutes les vitraux. Et puis ne pas y revenir. On ne sait pas non plus si l'artiste, combien de temps il va être encore artiste. Je lui souhaite longue vie, mais voilà, ça nous a paru souhaitable de terminer l'opération.
Bien, si pas d'autres questions, je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. Attribution de bons cadeaux pour le loto des écoles. Madame Roux, s'il vous plaît.
Utilisable dans les commerces de la commune. Souhaitant s'associer à cette opération, il est proposé de renouveler la participation communale en allouant pour chacune des deux écoles deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 60 euros TTC chacun au profit du loto des écoles. Ces bons, dont le montant total s'élève à 240 euros TTC, feront l'objet d'un mandat sur le budget principal de la commune à l'article 6232. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'allouer à l'école maternelle et à l'école élémentaire de Bédouin deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 60 euros afin de contribuer à l'organisation du traditionnel loto.
éléments de questions particulières. Donc, je le soumets aux voix, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Ensuite, les séjours d'hiver.
Alors, les séjours ?
Non, non, mais sur les, le contenu des tableaux.
Ah, oui, le dernier, je vous le lirai. Bon, vous savez qu'il y a des... Comment dire, on commence à avoir une demande assez importante de jeunes et de familles d'enfants qui nous ont un peu sollicité pour voir si on ne pouvait pas mettre en place des séjours ski pour les vacances de février. Notre responsable du service, Sylvie Bazar, s'est penchée sur le problème. Elle a fait établir des devis et il s'avère qu'on peut proposer des séjours d'une durée alors de, je crois que c'est 5 jours. À des tarifs qui sont vraiment intéressants si on mutualise un petit peu avec deux communes qui sont Sarrières et Visan, notamment sur le transport. Le transport en bus coûte très cher souvent, alourdit beaucoup les dépenses. Et donc en se groupant avec deux autres communes, on arrive à proposer des séjours en pension complète avec les forfaits inclus, la location du matériel pour les enfants. Et donc ce sont les tarifs qui vous sont proposés plus bas. Donc cette année, il est prévu de faire partir... on aurait 20 places pour Bédouins dans la tranche d'âge de 6 à 10 ans. Et nous aurions 15 places pour les 11-15 ans. Donc voilà, ce sont des tranches d'âge qui ne sont pas parties souvent au ski. Et on espère que cette année, on va remplir. Alors il faut savoir aussi que le CCAS, lorsqu'il a été saisi de ces problèmes-là, a décidé de faire un geste, c'est-à-dire que nous avons décidé, compte tenu des finances actuelles, qui sont assez bonnes, nous avons décidé d'octroyer à chaque enfant 40 euros pour un peu alléger les charges des familles. Voilà. Donc je vous le dis, hein, c'est bon, voilà. Donc l'accueil de loisirs, les aventuriers du Ventoux de Bédouins propose durant les vacances d'hiver 2020 deux séjours. Un séjour neige au domaine des Cibelles en Savoie pour 20 enfants âgés de 6 à 9 ans du 16 février au 21 février 2020. Un deuxième séjour neige à Ancel dans les Hautes-Alpes pour 15 enfants âgés de 11 à 15 ans du 24 au 28 février 2020. Il est proposé au conseil municipal de valider le principe de financement selon les modalités suivantes. Donc nous avons toujours nos trois quotients familiaux. Et nous avons également un tarif pour les enfants qui habitent à l'extérieur de Bédouins, qui eux paient 100% en fait du coût. Donc quand on est dans la tranche du quotient familial inférieur à 650 euros, la famille prend en charge 40% du coût de la prestation et la commune les 60% restants, plus, elle finance en plus, les salaires des animateurs. Pour le coefficient familial numéro 2, qui est inférieur à 1 600 euros, les familles prennent 50% du coût de la prestation, la commune les 50% restants et le salaire des animateurs en plus. Et pour le coefficient familial qui est supérieur à 1 500 euros, les familles ont à charge 60% du coût de la prestation et 40% pour la commune ainsi que le salaire des animateurs. Donc comme je vous l'ai dit, pour les enfants de l'extérieur, les familles prennent en charge 100% du coût et la commune assume le salaire des animateurs. Un acompte de 50% sera demandé aux familles pour la réservation. Et si nous nous trouvions avec moins de 10 participants, le séjour serait annulé et l'acompte remboursé aux familles. Voilà. Donc les tarifs sont les suivants. Pour le séjour aux Cibelles, les enfants qui sont dans le coefficient familial inférieur à 650 euros, donc on demandera aux familles 166 euros. Ceux qui sont dans le quotient familial de 650 à 1 500 euros, les familles devront donc acquitter 207,50 euros. Et pour les familles qui se situent au-dessus de 1 500 euros, on leur demandera 249 euros. Pour les enfants de l'extérieur, il faudra régler 415 euros. Alors, ce sont les frais, en fait. On a proposé, nous, les tarifs à 160, 200, 235 euros et 415 euros pour les familles de l'extérieur. Pour Ancel, vous avez un coefficient familial inférieur à 650 euros, il faudrait régler 159,87 euros. Pour le coefficient de 650 à 1 500 euros, 199,84 euros. Et pour le coefficient familial supérieur à 1 500 euros, 239,80 euros, sachant que pour les familles extérieures, il faudrait s'acquitter de 399,67 €. Donc après, on a fait des arrondis. C'est-à-dire que dans la case grisée, vous avez le montant exact de la participation qui est demandée. Alors, une démarche auprès des communes dont les enfants fréquentent l'ASH pourrait être engagée afin de solliciter une prise en charge du coût du séjour. De plus, les familles pourront solliciter l'aide du Centre communal d'action sociale, c'est ce qui a été prévu, pour le séjour, donc dans la limite, hein, je vous ai dit, de 40 € par enfant de Bédouin. Pour le séjour, la réservation sera effective à réception du dossier complet du centre de loisirs et du règlement de la compte, et les recettes seront encaissées par la régie de recettes du pôle EJE. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de financement du séjour hiver 2020, ainsi que les tarifs et conditions d'annulation. Autoriser Monsieur le maire à engager les démarches en vue d'un conventionnement avec les communes extérieures afin de faire bénéficier aux familles les tarifs applicables aux enfants de la commune en contrepartie d'une participation municipale. Ça, c'est...
Bien, merci. Des questions particulières ?
Question, juste commentaire, je trouve que c'est un effort intéressant hein, par rapport aux tarifs, notamment puisqu'on en avait déjà pas mal discuté. Il manquerait juste un tarif à 400, mais j'espère qu'un jour on y arrivera. Hein. 400 au niveau du CUF pour les familles vraiment les plus en difficulté de la commune et les enfants. On a, je crois, une soixantaine d'enfants hein, de ces âges-là qui sont en dessous du CUF de 400. Quoi. Voilà. Et que même là, 160 €, si vous avez un, deux ou trois enfants dans la fratrie, c'est difficile pour ces familles-là. C'est tout. Mais c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais voilà.
Merci pour ces contributions. Je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Coucadis, transfert de droit au bail.
Je me suis trompé. Alors, par courrier du 4 novembre 2019, maître Clio Perronnet, notaire à Avignon, sollicite l'autorisation de la commune en vue de la cession par M. Nicolas Gerbeau au profit de M. et Mme Éric Daniel du chalet numéro 47 dont il est propriétaire situé au 300 chemin Coucadis Sud, cadastré section AB numéro 43 pour une contenance cadastrale de 68 mètres carrés. À cette cession vient s'ajouter le transfert du droit au bail qui a commencé à courir le 1er octobre 1966 et qui a été renouvelé jusqu'en 2058 au terme d'une délibération du 20 décembre 2013. Monsieur le maire précise que l'acquéreur s'engage à respecter les termes du règlement du lotissement et du contrat de bail. Vu le règlement du lotissement, vu la concession portant bail emphytéotique consentie par la commune au terme d'un acte initial reçu par maître Jean Reynard, notaire à Bédouin, le 30 novembre 1966, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de vente du chalet installé sur le terrain communal du Coucadis, d'autoriser le notaire en charge du dossier à poursuivre cette vente pour le droit au bail restant à courir, de donner pouvoir à Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction pour signer tous les actes à cet effet.
Rien de particulier, des questions non. Je soumets donc aux voix des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. On passe au point suivant. Aide à l'accession à la propriété ou lotissement de la Croix de la Salle, demande de remboursement.
Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2014-061 du 11 septembre 2014, le conseil municipal a éprouvé le programme d'aide à l'accession à la propriété pour les acquéreurs d'une parcelle au lotissement Croix de la Salle, route de Carpentras, afin d'y construire leur maison d'habitation. Pour chacun des acquéreurs souhaitant bénéficier d'une participation municipale de 5 000 €, la signature de l'acte de vente entraînait l'adhésion complète aux dispositions de la charte relative à l'action de la commune en faveur de l'accession à la propriété. Les acquéreurs s'engageaient à occuper la maison à usage de résidence principale pendant une durée d'au moins 10 ans, à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain, s'interdisant dès lors de mettre le bien en location. Considérant que le non-respect de cette clause justifie la demande de remboursement de l'aide municipale, nonobstant l'application de l'indemnité à titre de clause pénale, puis les délibérations numéro 2014-61 du 11 septembre 2014 et numéro 2015-039 du 26 mars 2015, et considérant le versement effectif de l'aide municipale aux 7 attributaires, vu le code civil, vu le code général des collectivités les collectivités territoriales, il est proposé au Conseil d'exiger le remboursement de l'aide municipale octroyée à Madame Joëlle Forger, épouse Gros, propriétaire de la parcelle cadastrée section F 31886, 4 lotissement Croix de la Salle, déclarée comme résidence secondaire et faisant objet de fréquentes locations, notamment sur le site Airbnb. D'autoriser Monsieur le maire à émettre un titre de recette d'un montant de 5 000 € et d'engager toute action nécessaire à la restitution de cette somme.
Très bien, merci. Des questions particulières ?
Oui, nous voterons contre parce que nous pensons qu'il y a pas, que le dossier est vide, quoi. Voilà. Tout simplement. Ça sera le seul commentaire que nous ferons.
Et rassurez-vous, je vais en rajouter. Je pense que quand on a créé ce lotissement, il y avait une question d'éthique. Il y avait une question d'éthique donc, qui faisait que l'on cherchait à favoriser les personnes qui résidaient à titre principal sur Bédouin, donc qui étaient des acteurs économiques actifs. Et cette première condition, apparemment, dans le cas qui nous intéresse, n'est pas respectée, dans la mesure où, quand on dispose du fichier fiscal, donc on se rend bien compte si c'est une résidence principale ou si c'est une résidence secondaire. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que ce bâtiment est loué. Donc il y a, sachez-le, et diffusez-le le cas échéant, il y a des recherches très fines qui sont faites d'ailleurs tant par l'Office du tourisme qui est en charge de récupérer la taxe de séjour. Et donc lorsqu'on se rend sur les différents sites, eh bien, on peut voir exactement qui loue quoi à Bédouin. Et il est assez anormal que la commune de Bédouin donne 5 000 € pour financer une opération qui permet à un propriétaire de faire un bénéfice. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas juste, et donc il n'est pas question que l'on laisse passer cet état de fait. Et souvenez-vous d'autre chose, nous avons passé dans cette même instance, il y a quelque temps de cela, une délibération qui, suite à la division d'une des parcelles, avait fait l'objet d'une restitution de la moitié de l'aide que nous avions accordée à ce jeune couple. Donc, à plus forte raison, là, on était simplement sur un cas de cession de terrain, et donc c'est une mesure équitable de justice qui s'appliquait. C'était d'ailleurs eux qui étaient venus nous en parler, on avait trouvé ce terrain d'entente, et là, je trouve, ça m'ennuie qu'on mette de l'argent public pour permettre à X ou à Y de faire de la location, une location qui est quand même assez rémunératrice. Hein. Vous allez sur le site, moi je ne suis pas là pour compter l'argent des autres, mais bon, je pense que l'argent de la commune, quand Patrick nous parle, nous dit qu'il faut aider davantage au niveau du CCAS pour des départs de gamins au ski, mais tout ce qu'on ne prend pas ailleurs pourra trouver sa juste place ici. Je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions ? Donc, j'en compte 4. Monsieur Rossetti, Monsieur Bernard, Monsieur Constant et Madame Perrin. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie pour la preuve favorable. Et cela étant, et ce sera le dernier de mes commentaires, qu'on vienne pas trop me chercher ensuite en disant que l'argent public est mal utilisé. Voilà. Réhabilitation du chalet de Manin. Dominique, s'il te plaît.
Cadastré section AB numéro 04, lieu dit le Cocalis, situé à quelques dizaines de mètres du chalet Reynard, aujourd'hui inoccupé. Le chalet Manin, construit dans les années 1960, ancien ERP de type PE 5e catégorie, avec locaux à sommeil, a en effet été fermé en 2001. En lien avec les projets de diversification de la station et les objectifs pédagogiques du futur parc naturel régional du Mont Ventoux, la municipalité souhaite proposer un lieu d'accueil au groupe, pratiquants d'activités de pleine nature, scolaires, accueil de loisirs, aux familles, ainsi qu'aux services de secours, et de construire un abri pour l'engin de damage des pistes. Elle envisage donc de restaurer et de produire un bâtiment performant au niveau énergétique et privilégiant le recours aux matériaux locaux. Afin de concourir au développement de l'attractivité de la station du Chalet Reynard, et dans le cadre de cette action spécifique, Monsieur le maire souhaite présenter une demande de financement régional au titre du contrat Station de demain et SMAEMV. Le projet de rénovation du Chalet Manin, dont le programme a été établi avec l'assistante technique du CAUE de Vaucluse, a été évalué à 350 000 euros hors taxe. Monsieur le maire souhaite solliciter le soutien financier régional à hauteur de 214 000 euros, représentant 61,14% de la dépense hors taxe prévisionnelle du projet et correspondant au montant de l'enveloppe disponible du contrat station. De plus, ce projet doit tendre vers le label haute qualité environnementale et permettrait à la région de valoriser une action exemplaire, COP d'avance sur le Ventoux. Ce projet serait par ailleurs éligible à une subvention de l'État dans le cadre de la DETR 2020. Le plan de financement prévisionnel hors taxe serait le suivant. Dépenses, études, prestations intellectuelles, 50 000 euros. Travaux, 300 000 euros. Total, 350 000. Recettes, région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, 61,14%, soit 214 000. État, DETR, 18,86%, soit 66 000. Autofinancement de la commune de Bédouin, 20%, soit 70 000, donc un total de 350 000 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les crédits votés par anticipation pour l'exercice budgétaire 2020, vu l'appel à projet au titre de la dotation d'équipement aux territoires ruraux pour l'exercice 2020, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel du projet de réhabilitation du Chalet Manin, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de Monsieur le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur une demande de subvention au titre du contrat station de demain à hauteur de 214 000 euros, représentant 61,14% du montant prévisionnel de l'opération. Autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de Monsieur le préfet de Vaucluse une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2020 à hauteur de 66 000 euros, représentant 18,86% du montant prévisionnel de l'opération. Autoriser Monsieur le maire à engager cette opération, à lancer la consultation et à déposer la demande d'autorisation d'urbanisme. De donner pouvoir à Monsieur le maire à signer toute pièce relative au projet et à solliciter, le cas échéant, toute autre subvention ou participation auprès des financeurs institutionnels.
Merci.
C'était la parole.
Oui. Donc je suppose qu'on a des garanties sur la subvention, ce que tu parlais tout à l'heure.
On dépose le dossier.
Non, mais je ne sais pas, tout à l'heure tu as dit que...
Mais moi, une subvention, tant que je n'ai pas l'arrêté attributif en main, tout peut arriver. Demain, si demain, ne le prenez pas à la première image, si demain on a un nouvel orage qui dévaste tout et que le conseil régional décide à un moment donné de désaxer ses crédits pour aller secourir des personnes en péril ou autre, c'est certain qu'il devra faire des coupes sombres. Mmh. On va dire que le projet semble envisageable de manière favorable. Et juste pour mémoire aussi, si j'étais un peu aigre tout à l'heure, la dernière fois, on avait obtenu de la même manière, et ça ne vient pas automatiquement, il faut monter les dossiers, il faut les convaincre, il faut passer du temps, on avait dû rendre 80 000 euros qui étaient prévus par la sous-préfecture, par l'État, et que l'on n'avait pas pu transférer sur notre projet, puisque c'était étroitement ciblé, quoi. Donc, comme pour tous les projets, effectivement, ça semble raisonnablement envisageable, et puis jusqu'à la dernière minute, par contre, ce serait extrêmement intéressant d'avoir ce, ce bâtiment à disposition de nos enfants, centres de loisirs et autres, skieurs quand on a de la neige, pompiers pour les secours, enfin, j'allais demander, non, le débat, on le refait plus, quoi. Là, il y a une unanimité. Merci.
Oui, vas-y. Je sais l'attachement des Bédouinés au chalet Manin, et justement, est-ce que pour son aménagement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire une concertation, une consultation? Bon, je pense que c'est un avant-projet qu'on a pu voir dans le dossier, hein, avec les plans, etc. Quand on regarde, l'accueil des groupes, c'est 33 mètres carrés. Le local pour la Dameuse, c'est le double, voire le triple. Bon, je sais qu'il faut de la place pour mettre une Dameuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut penser à mettre une Dameuse là-haut, quoi? Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on aura encore de la neige? Est-ce qu'on aura encore besoin de cet angel-là? Je ne sais pas. Alors voilà, moi c'était ça, de dire dans l'aménagement interne, ça serait intéressant d'y associer un maximum les Bédouinés. Il y en a beaucoup qui passaient leurs vacances là-haut, qui, voilà, donc ça serait intéressant de dire qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce chalet. Tu parles d'accueil des familles, d'accueil des groupes, ça c'est bien, c'est intéressant. Voilà. Peut-être qu'il faudrait justement associer dans la démarche avec le CAUE, puisque c'est eux qui vont travailler. Un maximum de la population.
Ce ne sera pas nécessairement le CAUE qui portera ce projet, puisqu'ils ne sont pas, architectes, donc ils ne peuvent pas déposer le dossier. Ils peuvent être des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Par contre, un petit point dont il faut se souvenir, et tu l'as dit justement, c'est qu'une dameuse, quoi qu'il en soit, ça nécessite un minimum d'espace et ça, on ne pourra pas s'y contraindre. Et que pour autant qu'on puisse obtenir un permis de construction pour cette partie d'équipement, on n'est pas dans des zones où on peut faire des extensions. Donc le débat risque de tourner court dans la mesure où, de toute façon, on ne pourra pas étendre la partie habitable. Ça, c'est à peu près admis. Dans la mesure aussi où, et donc je m'en souviens très bien pour l'avoir vécu à l'époque, quand on avait eu la commission de sécurité, on nous avait demandé déjà d'enlever les cheminées. La cheminée, c'était magnifiquement agencé. C'était Michel Paravel, d'ailleurs, qui l'avait fait. Il fallait, là aussi, démonter toutes les lames de bois pour les traiter avec un produit spécial. Ce que devait faire la Légion étrangère, à qui on prêtait parfois le chalet lors des manœuvres, mais qui était reparti au Liban ou au Tchad, et qui nous, donc on était resté en place. Il fallait à l'époque aussi faire WC homme, WC femme, douche homme handicapé, douche dame handicapée, ce qui nous prenait quand même un peu de place. Il nous fallait enlever aussi tous les baflans de bois qui avaient été faits, qui étaient magnifiques, dont on se servait bien, pour ne réduire qu'à 8 l'hébergement dans ce chalet. Donc ce qui signifie que ce chalet, effectivement, on va l'ouvrir, on va le mettre à disposition du public, mais malgré tout, le public sera quand même puis dans des proportions limitées. Et donc on est quand même sur cette petite surface. Pour être que du général. Cette salle, l'a fait 99 mètres carrés. Donc vous la divisez en trois, ça vous donne une idée de la surface aménageable. Ouais.
Ça fait pas mal. Il n'y avait pas aussi une histoire de que si l'accueil était fait sur 12 mois, il ne fallait pas une salle de secours qui soit égale surface à la salle d'accueil. Moi, je me rappelle, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce projet, et si l'accueil était sur 12 mois, justement, il fallait la moitié de la surface, il fallait au moins une surface égale, au moins autant importante que la surface d'accueil, pour, en cas de quelque chose, comme si la pièce à côté allait, en cas d'avalanche, être protégée par
rapport. Sauvé.
Mais en cas d'accueil que 6 mois par an, c'était pas la même, on n'avait pas les mêmes contraintes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil? Est-ce que vous vous êtes renseigné là-dessus?
Ça, ça ne nous a pas été signalé. Par contre, ce qui a motivé notamment l'augmentation hein, depuis le projet depuis 2 ans, c'est que le bâtiment doit être en HQE, en haute qualité environnementale, bon, ce qui n'est pas à Sceaux, loin de là, mais qui augmente encore, qui génère justement l'augmentation du coût entre le premier projet et celui-ci.
Mais pour la fréquentation sur 12 mois, mais essayez de vous renseigner, parce qu'il ne faudrait pas monter un projet qui, après, ne pourrait pas être, par exemple, utilisable 12 mois, ou... ouais. Parce que le coût sera pas le même, et la capacité d'accueil non plus, donc c'est tout. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait cette condition.
Avait celle-là, oui. Et ce que j'avais oublié aussi, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas l'eau et l'assainissement qu'on a mis quand on a équipé le lotissement du Cocadis 2004. Voilà. Donc voilà, on chemine tranquillement. Sur le principe donc, de réalisation dans les conditions de financement que nous devrions obtenir, je le mets donc au voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Les équipements municipaux de la Pinède, modification des tarifs. Alors, Madame Leclerc, je vous cède volontiers le micro. Essayez d'être succincte, précise comme à votre habitude.
Merci beaucoup. Bon, alors, comme toutes les années, on va voter les modifications des tarifs. Alors, il y a, si vous avez bien vu votre feuille, il y a 4 pages qui correspondent à ces tarifs. Alors, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucune modification de tarifs, quelques petits ajustements, simplement dans les tarifs de piscine. Alors, si vous les avez sous les yeux, si vous voulez, je vous lis tout, mais ça n'a rien de changé par rapport à l'année dernière. On est obligé de tout reprendre puisque c'est une délibération unique qui a été prise l'année dernière, donc on est obligé de reprendre toute la délibération qui est encore valable, donc qui sera encore valable pour 2020. Vous souhaitez que je lise pas tout? Oui?
Bon, allez. On la dispense, signalons-nous plutôt les points qui ont bougé.
Tout le monde est d'accord pour que je ne lise pas?
Oui.
Oui ou non? Alors, les modifications, je reprends malgré tout un petit peu. Les emplacements, les forfaits avaient été fixés l'année dernière, ils n'ont pas changé. Les prestations n'ont pas changé. Les habitations légères de loisirs n'ont pas changé, ni les mobil-homes. On a uniquement modifié donc, les droits d'entrée piscine, simplement pour permettre aux personnes qui veulent... venir toute la journée sur le camping, sur la piscine, pardon, et qui veulent sortir pour déjeuner à midi ou même ou sortir dans la journée, on a appelé le tarif un tarif liberté. Évidemment, vous le trouvez au numéro 6, droit d'entrée piscine. Alors, ce tarif liberté, évidemment, est majoré par rapport au tarif normal. Le tarif normal, qui n'a pas changé, est de 2,90 €. On a donc créé ce tarif liberté pour 3,40 €. C'est-à-dire qu'on peut prendre son ticket et sortir déjeuner dans le village en payant légèrement plus. Ça nous a été demandé cette année et c'est vrai que ça manquait un petit peu. Alors, les abonnements, évidemment, ça se reporte sur les abonnements qui passent de 29 € à 35 €. Également sur les tarifs réduits des enfants, sur les abonnements pour les tarifs des enfants et sur les tarifs réduits des enfants scolarisés. Donc tous ces les tarifs liberté sont donc légèrement majorés par rapport aux tarifs qu'il y avait actuellement. Alors il y a aussi une petite précision parce qu'on avait toujours un peu des difficultés en ce qui concerne les groupes. Il a été décidé qu'un groupe était constitué de 8 personnes, qu'il pouvait être composé d'adultes et d'enfants, et qu'on appliquera le tarif groupe à la condition qu'une réservation soit faite 24 heures avant. Voilà, c'est les seules modifications que nous avons apportées pour cette année. Alors, entre parenthèses, on peut dire qu'on a une augmentation de chiffre d'affaires d'environ 17% pour cette année 2019 sur le camping, pas sur la piscine. Hein. La piscine, non, ça stagne. Voilà. C'est tout. Alors, attendez, je vais vous lire la fin quand même, peut-être. Eh oui. Alors, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs détaillés ci-dessus pour les emplacements, le promotionnel pour l'option emplacement préférentiel, les locations, les tarifs promotionnels des locations, les frais de location prévisionnels, les droits d'entrée piscine, les droits d'entrée tennis, le garage mort et les badges d'entrée. De dire que ces tarifs seront applicables à partir de l'année 2020, de prévoir les crédits correspondants au budget annexe camping, piscine, tennis, de donner pouvoir à M. le maire ou tout autre adjoint faisant fonction pour mettre en application les modalités ainsi que pour signer tout document relatif à la présente délibération. Donc, si on les vote aussi tôt, avant le début de la saison, c'est parce que c'est pour une question pour l'information, pour les publicités, voilà, pour les réservations, pour connaître les tarifs, évidemment, il le faut tout de suite. Voilà.
Y a-t-il des questions sur ces tarifs multiples ?
Sortir et rentrer n'importe oui. Le nombre de fois que je veux dans la journée.
Voilà.
Hein, il n'y a pas de limite.
Voilà. Voilà, parce que c'était pas mentionné. Et on avait dit, ben non, ils ne sortiront pas. Et ça, évidemment, ça posait quelques problèmes parce qu'il y a peu de personnes. Hein. C'est surtout des abonnements, des personnes. Ils viennent fréquemment à la piscine et qui ont envie de rentrer, à l'heure, surtout cette année, à l'heure du déjeuner, au moment où il faisait aussi chaud. Donc de rentrer, voilà, déjeuner et puis revenir un peu en fin d'après-midi. Peut-être, hein? Mais il faudrait d'abord qu'il y ait beaucoup d'ados. On le souhaite.
Bien, pas d'autres questions. Je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Madame Leclerc, continuez pour l'heure d'accueil des camping-cars, modification des tarifs.
Alors, pour les camping-cars, depuis la création de l'aire de camping-car, on n'avait fait aucune modification. Les tarifs nous sont toujours proposés par la société Camping-Car Park. Et cette année, compte tenu du succès de notre aire de camping et aussi compte tenu du fait que les tarifs n'ont pas bougé depuis 4 ans, je crois, ils nous ont proposé de les augmenter d'une façon raisonnable puisque, je vais vous les lire. Monsieur le maire rappelle que par délibération 2016-012 du 1er février 2016, le conseil municipal a autorisé la signature d'une convention d'occupation de sol de 5 ans avec la société Camping Car Park, a donné son accord sur les tarifs de stationnement proposés par le gestionnaire et fixé le montant de la redevance. Il est proposé d'actualiser les tarifs de stationnement ainsi qu'il suit. Basse saison du 1er janvier au 31 mars, du 1er octobre au 31-12, 10 euros la nuit. Et en haute saison du 1er avril au 30 septembre, 11 euros la nuit. L'emplacement est valable 24 heures. Le tarif de 5 euros pour 5 heures de stationnement maximum reste inchangé. L'occupant reste tenu de verser à la commune une redevance annuelle égale à 70% du chiffre d'affaires TTC et reste soumis au paiement de la taxe de séjour au profit de la SPL Ventoux Provence. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention intervenue entre la commune de Bedouin et la société Camping Car Park, vu le budget annexe Camping Piscine Tennis, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2020, de donner pouvoir à Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction pour l'application de la présente délibération.
Très bien, merci. Et je crois qu'on a quelques chiffres aussi de résultats.
Oui, alors on a constaté cette année une augmentation de 70% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, je trouve mon papier, mais je les ai quand même en tête. L'année dernière, on avait encaissé environ 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette année, on a fait une estimation pour décembre qui est peu importante, hein, de 500 euros. Une petite estimation, donc ça risque d'être à la hausse. On a dépassé 51 000 euros. Donc, voilà. C'est une opération quand même qui a été intéressante, surtout compte tenu de l'état de nos finances pour la piscine. C'est une bonne, un bon apport de financement et qui nous coûte évidemment les 30% que l'on paye à la société qui s'occupe malgré tout de la gestion ordinateur. Et...
Très bien, des questions particulières ? Je vous fais voter ces nouveaux tarifs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Je vais vous parler maintenant des coupes de bois 2020. Donc, dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'ONF est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Il s'agit précisément des coupes prévues au plan d'aménagement forestier en vigueur. Ce sont des coupes réglées ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l'ONF considère comme devant être effectuées en raison de motifs techniques particuliers. Et en conséquence, je vous invite à délibérer sur l'assiette des coupes 2020, puis sur la dévolution à la destination des produits issus des coupes de bois réglées, non réglées. En tas d'assiette 2020, vous avez en fait 6 coupes pour un total de 52,52 hectares, qui devrait nous permettre d'extraire 2682,20 mètres cubes, donc estimation Office national des forêts. Ce sont essentiellement du pin noir, du chêne, le plus rémunérateur, et donc ensuite du chêne et un tout petit peu de cèdre, d'environ 600 hectares de cèdre. Oui. Excusez-moi. Voilà, et le tout, pour vous, j'ai demandé donc une estimation, mais ensuite, vous le savez, ça dépend des ventes que nous faisons, qui elles-mêmes subissent la loi du marché, etc. Donc on envisage d'être dans les 50 000 euros de recettes pour 2020, ce qui est honnête dans la mesure où nous c'est surtout le cèdre qui rapporte et comme il y en a peu. Donc ça, voilà. Bien, alors les coupes, où est-ce qu'elles sont situées? Bien, vous en avez un peu partout dans le Ventoux, bien entendu. Vous en avez un certain nombre, notamment pour ce qui concerne les pins, donc qui sont au-dessous de la route des 1400, on est toujours dans l'exploitation de ce secteur. Donc on a un petit peu de cèdre autour de Perrache et autour au Cross. Et on a un peu de bois mélangé, un peu de cèdre et un peu de pin du côté de Mauvala, entre le Mour et le Pluviomètre. Quelques détails. Il y en a un peu à couler de roubing aussi, couler de roubing, mais c'est davantage du chêne. C'est ce petit chêne là qui est pas terrible et un peu plus bas à l'entour du Balivet ou pour ce qui est du cèdre là aussi. Voilà, des questions particulières ? Je me semble qu'on en a vendu 14 sur Bec. Il en reste. Il me semble, mais pour le moment, elles n'ont pas d'attributaire. Je dois avoir des offres qui devaient arriver, mais on n'a pas fait de publicité et on n'a pas fait davantage de publicité pour le moment. C'est une question assez épineuse, c'est l'eau de truffe qui reste. Parce que s'il reste sans propriétaire, il y a des risques que ce soit creusé, sachant que l'ONF y est particulièrement vigilant et qu'ils sont surveillés, puisqu'ils sont identifiés, on sait où ça se trouve, et qu'ils ne feront aucun cadeau à qui que ce soit, de Bédouin ou d'ailleurs, si quelqu'un est surpris dans la... Non, non, mais je le dis. Et que ce soit relayé, parce que c'est vrai que le vide, la nature a horreur du vide, et si personne ne les attribuait. Et après, le problème, c'est que pour certaines autres, à un moment donné, par rapport au prix de référence, bon, qui peuvent subir des variations, parce qu'on sait que la truffe, donc c'est capricieux, et en particulier ces dernières années. Donc il ne faut pas non plus, le risque c'est de faire des attributions à des prix planchers, et ces attributions à des prix planchers vont servir de référence lors de la prochaine vente, ce qui fait que, bon, on était à 30 000, là on doit être à 14 16 000, j'avais les chiffres l'autre fois, je ne m'en souviens plus, mais on est à peu près, on a dépassé la moitié, et par contre nous reste des lots qui étaient plutôt un peu cher. Donc il suffit pas qu'il y en ait beaucoup, il suffit qu'il y en ait... Oui. Ça a eu payé. Oui. Et là, il y a des paramètres multiples, on va dire, qui agissent. Le premier étant quand même le climat. Mais cette année, on ne pourra pas dire que ce sont les sangliers qui mangent tout. Je m'inscris à me faux. Donc voilà, mais les chiffres, on les a là, on pourra vous les passer. Bien. Donc je fais voter cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Mais ensuite, modification du tableau des effectifs. Eh bien, vous savez qu'à chacune des séances, vous avez droit donc à une revue de détails, et on règle tout ceci de manière la plus stricte. Donc, lors de la séance du 7 novembre 2019, le Conseil s'est prononcé en faveur de la municipalisation de la maison des services au public et du transfert du salarié. Par délibération numéro 2019-125 du 7 novembre 2019, le tableau des effectifs a été modifié dans ce sens. Donc, les besoins de la MSAP pour laquelle la labellisation en maison France Service est envisagée nécessite de créer un poste d'animateur territorial non titulaire à temps complet et de supprimer le poste précédemment créé à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires. La rémunération sera composée du traitement indiciaire afférent au grade d'animateur territorial au 11e échelon, indice brut 538, indice majoré 437, et l'intéressé bénéficiera du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétion, de l'expertise et de l'engagement professionnel afférent au grade et aux fonctions exercées. Par ailleurs, l'activité du service technique justifie d'ouvrir un poste d'adjoint technique territorial à temps complet. Et enfin, il est proposé d'ouvrir un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour le service finance-comptabilité. Vu la loi 83-634 du 13 juillet, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, vu la loi 2009-972 du 3 août 2009, vu la loi 2019-828 du 6 août 2019, vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le budget de la commune, vu l'organigramme hiérarchique des services, vu le tableau théorique des effectifs, il est demandé donc de créer, à compter du 1er janvier, un poste d'animateur territorial non titulaire à temps complet aux conditions précisées là-dessus, et de supprimer le poste précédemment créé pour une quotité de temps de travail à temps non complet, de créer, à compter du 1er janvier 2020, un poste d'adjoint technique territorial au sein des services techniques municipaux, de créer, à compter du 1er janvier 2020, un poste d'adjoint administratif territorial au sein du service administratif, de modifier le tableau théorique des effectifs annexé à la présente délibération, d'actualiser le RIFSEP afférent au grade des postes occupés, de dire que les crédits seront inscrits au chapitre 12 du budget principal 2020. Donc si j'ai un commentaire à faire là-dessus, Donc vous savez que le fait de passer en maison prend ce service et de municipaliser ce service en continuité de la MJC nous oblige, j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas d'autre mot, à intégrer, à proposer l'intégration du personnel qui occupait ce poste précédemment. Et ensuite, donc, nous avons, pour ce qui est le poste d'adjoint technique territorial au sein des services techniques municipaux, il s'agit en fait de la création d'un nouveau poste, mais qui compense le départ d'une agent, donc, qui, au bénéfice de l'âge, donc c'est Madame Saladin, on peut le dire, voilà, son poste disparaît, donc on en crée un autre pour Monsieur Michael Langer. Et donc un poste d'adjoint administratif au sein du service administratif. Voilà. Des questions particulières ?
Oui, vas-y. C'est pareil. Le premier poste, là, bon, c'est tout à fait normal qu'on l'embauche. Je pense qu'on aurait pu faire une délibération pour le premier poste, parce qu'on reprend la MSAP, et les deux autres postes, c'est sont des choses différentes. Le poste de créer un poste d'animateur territorial à temps complet, de supprimer le poste, ça c'est déjà. C'était un poste qui n'était pas pris en compte par la commune, mais je pense que c'est différent des deux autres créations de postes. Non, mais je donne mon avis.
Oui, on a traité globalement le.
Oui, mais c'est le personnel. C'est, le pour moi, ce sont deux choses différentes.
Oui. Non. Ah non, merci.
Pourquoi d'un seul coup là vous montez J'ai je pas demandé pas. À Sindé là. Je dis que ça aurait dû. Ça aurait dû faire partie de deux délibérations différentes. C'est tout.
Écoutez, on le note au procès verbal, mais pour ce qui est de la demande de scission, la réponse est non.
Donc,
vous savez pourquoi.
Hein. On votera contre cette délibération.
Bien, alors je le soumets. Ah, pardon.
Juste une intervention sur le premier poste. Oui, là, on passe de 25 heures à 35 heures. tu as dit reprise des activités de la MJC, puisqu'il ne s'agissait pas là, hein, voilà, la dernière délibération, mais je l'ai bien lu. Bien écouter les commentaires. Donc la reprise de l'ensemble des activités qui étaient effectuées sur ce poste-là, sur cette personne-là ou pas. Dans le sens que le projet de la MJC, il y avait, pour bien me souvenir, bien sûr, de l'accueil de la MSAP, d'accord. Il y avait aussi de la formation sur les différents logiciels et sur les accès. Il y avait de la récupération du mantèlement de matériel, ce qu'on appelle globalement la cerise de mérite. Il y avait un certain nombre d'activités, les formations sur les logiciels libres, en fait, toutes ces choses-là que faisait la MJC, et qui ne seront plus donc, si je regarde hein, la délibération et autres, qui ne seront plus faites par la commune.
On entre dans une labellisation Maison France Service, qui nous impose une charte, donc que l'État définit. D'accord. Donc ce qui veut dire que les réparations d'ordinateurs telles qu'elles étaient faites par l'animateur à l'époque, ça doit faire l'objet, les choses peuvent être faites, mais en aucun cas, nous, mairie, on peut se lancer, et on interviendrait dans le domaine concurrentiel, dans la réparation des ordinateurs de Dupont ou de Durand. Comment facturerait-on d'ailleurs ? C'est un service marchand, ça, on ne pourrait pas le faire. Nous, le CMP, on sait de quoi on parle et tes questions ne sont pas innocentes. Et voilà. Donc, et Vincent va intervenir.
entendu. Mais je trouve dommage. On aurait pu être un peu plus proactif sur cette question-là. Peut-être pas sur la question des réparations, et je suis d'accord là-dessus, mais sur d'autres choses, ça aurait pu. Puisque la Maison France Service nous impose 25 heures d'ouverture avec deux personnels, donc ils y seront les deux. Là, on passe de 25 heures à 35 heures, donc il y a 10 heures de cet agent, avec des compétences. Et pourquoi pas, puisque c'est bien la question, développer et l'aider à développer ses compétences par ailleurs au sein de la commune. Voilà, oui. C'était juste ma question. Hein.
D'accord. Alors, d'accord, mais pourquoi passe-t-on de 25 à 35 heures? Et mes propos sont enregistrés, je les assume parfaitement. Le salarié de la MJC, dont on ne met pas du tout en cause la compétence, loin de là, et on a beaucoup apprécié sa collaboration, travailler 25 heures avec un salaire donc qui était très important. Et le problème que nous avons, c'est qu'on ne peut pas transposer, faute à créer un dérèglement complet auprès des 50 autres employés de mairie, on ne peut pas transposer un salaire du privé dans une grille de la fonction publique. Donc, par contre, étant donné qu'il pouvait être, justement, qu'il est apprécié pour d'autres cordes qu'il possède à son arc, par exemple des constitutions d'affiches ou du travail avec beaucoup d'autres, on lui avait proposé donc de travailler sur 35 heures, donc pour un salaire qui restait le même, donc, mais qui, pour un temps complet, était compatible avec, par référence, à ses collègues titulaires. Et donc, ce qui était prévu, c'est aussi de Maison France Service, on nous impose effectivement d'avoir deux agents qui interviennent. Et par contre, on sait très bien que plus les choses vont aller, au plus on va avoir de services qui vont nous incomber. À titre d'exemple, vous l'avez certainement su, vous lisez la presse, la bonne presse comme moi, Malocène se voit privé de sa poste. Aubignan se voit privé de sa poste. Nous, on a la chance, bon, j'avais reçu la directrice de la poste il y a quelques jours, nous savons que pendant 2 ans, nous aurons encore une poste, mais elle me dit, c'est le point extrême que je puis vous garantir. Donc à un moment donné, il vaut mieux qu'on structure correctement les besoins qui sont recensés dans la convention que nous allons passer entre nous, plutôt que de se trouver à tirer dans toutes les directions, dans des domaines que l'on n'a pas à couvrir, et être obligé ensuite de réembaucher derrière pour assurer l'activité pour laquelle on est en convention. Mais par contre, après, on peut très bien imaginer que de l'associatif, voire éventuellement, et ça a été une solution envisagée, que des activités extra maison France Service soient exercées par X ou par Y, bon, ça nécessite des aménagements, parfois des autorisations ou autres, enfin, on portait à connaissance, mais on n'y est pas opposé. Mais là, on va se, comme disait Vincent, on va se cadrer, on va se limiter aux fonctions de la Maison France Service, mais qui commence sous peu. Là. Oui, voilà. Et donc, pour l'agent, je dis bien, il n'y a pas d'alternative. Donc le service continuant, eh bien on est en charge de reprendre le personnel. Alors bien sûr, si celui-ci ne souhaite pas que. On ne va pas l'attacher, on ne va pas le faire travailler à la schlag. Discussion, comme vous pouvez imaginer, des réglages, des cadrages, et on n'a pas fini. Puis, bon, on verra ce qu'il en adviendra. Bien, je le soumets donc aux voix. Alors, y a-t-il des oppositions? Monsieur Bernard, Monsieur Rossetti, Madame Perrin et Monsieur Constant. Des abstentions? Bien, merci pour ces preuves favorables. Modification du tableau des effectifs, emploi non permanent. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 84-634 du 13 juillet 83, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, vu la loi 2019-828 du 6 août 2019, considérant les besoins occasionnels au sein du pôle enfance, jeunesse, éducation, sport et action sociale, vu l'organigramme hiérarchique des services municipaux, où il est exposé de Monsieur le maire, il est demandé d'approuver la création de 2 postes d'adjoint d'animation non titulaire à temps complet pour le pôle JE, l'un à compter du 1er janvier 2020 et l'autre à compter du 1er février 2020. D'approuver la création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à temps non complet, 25 heures hebdomadaires, de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Donc on a parlé tout à l'heure des activités que nous... avec les enfants, les encadrements de camp, sachant que de toute façon, on aura toujours de l'effectif qui restera là, donc on fait de l'emploi titulaire, bon, qui n'a rien de particulier. Et donc un poste d'adjoint technique non titulaire, c'est pour du ménage, et notamment parce que nous devrions ouvrir au 1er février la maison de santé pluriprofessionnelle, dont la commune prend en charge le ménage, qui entre d'ailleurs dans les coûts qui ont été estimés, les coûts de location qui ont été estimés. J'ai bien dit, monsieur Franck. Voilà, j'avais su. Bien. Des questions particulières? Je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bien, on n'en a pas fini pour autant. Nous avons l'habitude de répondre aux questions qui nous ont été posées par écrit. Monsieur Constant en avait déposé. Alors, attendez, j'ai les questions et les réponses. Alors, la première question, nous souhaiterions aborder lors des questions diverses les points suivants. Attribution du lot 3 de l'ossature au bois pour le projet de la salle des sports, relance suite au désistement d'une entreprise, point financier sur ce lot. Monsieur Rouillard. C'est ça.
Oui, c'était l'entreprise marchande. Alors, j'ai pas pris le montant de l'entreprise marchande. Non, parce qu'en général... pour raison médicale, quoi. Hein, donc, il savait qu'il était malade. Il n'était pas sûr de pouvoir assumer, donc il a préféré se désister. Donc, d'un commun accord, on a fait un désistement avec lui. Pour que lui ne soit pas pénalisé, j'allais dire, nous non plus, par rapport à sa démission. Effectivement.
C'est dûment étayé par tous les documents que nous avons reçus. Hein. C'est pas un arrangement. Et donc, malheureusement, même si on parle beaucoup des charpentes de bois, ossature bois, et vous savez que si on a adopté ce principe, c'est parce que c'est beaucoup plus susceptible d'être agrandi que du béton ou autre matériaux plus durs. Et la filière bois n'est pas vraiment capable de répondre rapidement et complètement à toutes les sollicitations. Donc on a maintenu le principe architectural, mais d'ailleurs, tout le projet avait été conçu de cette manière. Donc ça veut dire que si on avait décidé, pour des raisons techniques par exemple, ou même financières, de repartir sur une ossature métal, ou sur du métal béton, il fallait qu'on refasse complètement toute l'étude, et donc on relance les marchés, ou enfin, ben oui.
Votre choix de départ, hein, après, de faire une ossature bois.
Eh oui. Ouais, il faut... Oui. C'est oui, quand on décide, on a toujours tort. Ensuite, le parking Saint-Marcelin, où en est-on par rapport à une réception éventuelle? Qu'en est-il de la reprise de la voirie? Donc, pour le parking Saint-Marcelin, les travaux semblant apparemment terminés, bien apparemment, quand je dis visuellement terminés, donc on était tenu donc de réceptionner les ouvrages. On était tenu, donc, nous, pour ce qui est de la partie voirie proprement dite, mais on a aussi le questionnement concernant les réseaux. Je parle notamment pour les principaux, je parle donc du réseau d'eau, du réseau d'assainissement, dont on a donné délégation, nous, au syndicat Renevantou, qui lui-même diligente l'entreprise Suez, qui est son bras armé sur le terrain. Donc la réception par le syndicat n'a pas semblé devoir être faite, puisque eux mettent en avant diverses malfaçons. Donc l'entreprise a fait faire un constat par huissier lors d'une réunion qui nous a tous rassemblés, où on a passé demi-journée à tout noter, mais... le problème, c'est que le constat a été fait par un huissier qui est payé par l'entreprise. Donc pour nous, ça ne nous satisfait pas. Donc on a fait une requête auprès du tribunal de grande instance pour qu'il y ait désignation d'un expert qui dira si les travaux sont recevables ou non. À partir du moment où c'est le tribunal qui désigne un expert, sa parole ne peut pas être contredite, quoi. C'est pas... mon technicien maison contre ton technicien maison. Donc voilà où nous en sommes. Donc on va faire cette désignation. On va prendre les avis de l'expert, ses préconisations, mais sachant que nous ne sommes que le client final. Et c'est-à-dire que la commune de Bédouin ne fera jamais des travaux pour réhabiliter pour réhabiliter des réseaux qui pourraient ne pas être conformes, hein, soyons clairs. Nous, on est, notre seule mission, c'est une réception, point. On n'a pas à intervenir. Non, on n'a pas voulu réceptionner parce qu'on n'est pas suffisamment sécurisé là-dessus.
Est-ce que ça doit durer encore pas mal de temps?
Si j'avais la réponse. Alors, ceci dit, pour les résidents, ça ne pose pas souci majeur, dans la mesure où, par contre, les réseaux sont toujours... sous la responsabilité du maître d'œuvre, et parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est une vente en état futur d'achèvement, une VFA. C'est-à-dire on a un constructeur qui fait un contrat, qui passe un contrat pour livrer un certain nombre de mètres carrés, un certain nombre d'appartements à Grand Delta Habitat, donc qui est son client. Ce maître d'œuvre choisit lui-même ses entreprises. Donc il peut choisir ses maçons, ses VRD, enfin, tout, ses électriciens ou autres. Ça, nous, on a rien à y voir dedans. Mais par contre, il faut que lui soit certain de ses entreprises et qu'il valide le travail que les entreprises ont fourni pour pouvoir le livrer. Et le problème qu'ils ont eu notamment, c'est que l'entreprise de VRD est en cessation d'activité, et que bien entendu, il y a des détails qui ne sont parfois des gros détails. Le travail n'est pas fait correctement pour être reçu dans les règles de l'art. Et donc on n'en est pas encore à un stade conflictuel, mais on en est au stade où on prend toutes les précautions au cas où on aurait des soucis ultérieurs, parce qu'il n'est pas question de signer demain une réception sans être certain que tout a été fait dans les règles. Si ça se trouve, ça a été fait dans les règles, mais ça, c'est seulement l'expert judiciaire désigné par le tribunal qui nous le dira. C'était des demandes de documents. Bien, mais messieurs, dames, il me reste à vous remercier de votre patience, de votre assiduité pour ce dernier conseil municipal de l'année. Mais je propose à celles et ceux qui le veulent de trinquer à la fin de cette année et au devenir de celle qui va la suivre. Merci.